Gameblogueuse, gameblogueur, bonjour et bienvenue dans le nouveau podcast de la rédaction podcast 350. Avec moi aujourd'hui, il y a Traz.
Salut, salut.
Il y a Julo.
Hello.
Et il y a Rami.
Hello, hello.
C'est Rami que voilà.
Le fameux Rami qui revient de Corse.
Qui revient de Corse.
Qui n'a plus d'oreille.
Plus d'oreille, non.
Interne, externe.
Terminé.
Alors forcément, si vous êtes premium, au moment où vous nous regardez, le Tokyo Game Show suit son cours, mais c'est la grosse actualité de la semaine. Nous allons revenir durant ce podcast sur ce que ce salon nous a proposé avec Julien et Carole, notamment dans un duplex de folie. Vous allez le voir, nos employés
par connexion satellite
sur place vont tout nous dire de ce qu'ils ont vécu à Tokyo. Mais c'est aussi la semaine où tout se décide en termes de football virtuel. Oh PES 2016, pas 2017, ça y est, j'étais déjà parti.
2018.
PES 2016 est sorti ce 17 septembre. FIFA 16, lui, arrive le 24. Le test de Gameblog sera dispo un petit peu avant, évidemment, la date de sortie de FIFA. Mais nous allons pouvoir vous en parler et faire un vrai comparo grâce à la version EA Access qui est parue ce 17 septembre, elle aussi, sur Xbox One. Une version limitée dans le temps. D'ailleurs, il y a même un replay, hein, si jamais ça vous intéresse. Une limitée, vous pouvez y jouer 10 heures, mais c'est une version complète. Et du coup, on peut déjà commencer à comparer. Mais d'abord, avant tout ça, avant de parler foot, et bah direction Tokyo, tout bêtement. On va retrouver Julien et Carole dans un duplex de folie. Salut les loulous, j'espère que ça va.
Salut.
Ça va bien?
Eh ben écoute, ça va super nous à Paris. Alors, ce TGS là, vous y avez passé plusieurs jours. Comment ça se passe en termes d'ambiance par rapport aux années précédentes? Est-ce que vous sentez une atmosphère particulière par rapport aux éditions des années passées?
Bah, déjà, première information factuelle, hein, la première journée du TGS a enregistré un record d'affluence, plus encore qu'année dernière, qui était déjà une très bonne année. Donc oui, il y avait beaucoup de monde qui se pressait dans les allées du Macquarie, messieurs, n'est-ce pas, Carole? Beaucoup d'étrangers, grosse délégation chinoise aussi, on l'avait vraiment vu bien plus que les autres années. Et après, le salon, bah, il était intéressant parce que c'est l'édition où il y a le plus de représentants, de stands, d'exposants de l'histoire du TGS. Il y avait les trois halls principaux étaient blindés de petites sociétés, etc. Et quand justement je précise petites sociétés, c'est que oui, le plus grand nombre d'exposants, mais parce que énormément d'écoles, énormément de petits jeux, énormément de petites sociétés, dont beaucoup de petites sociétés occidentales, pas japonaises. Et à côté de cela, bah, une présence des gros acteurs du jeu vidéo traditionnel console, peut-être un peu moins marquée. PlayStation, par exemple, avait un stand qui était moins conséquent que les autres années, en termes de volume et même de décor. Konami, lui, avait été repoussé dans un autre hall, alors que d'habitude, ils sont vraiment avec les gros éditeurs. À la fin, on sait que même si là, ils avaient Metal Gear Online et PES, vous l'avez vu sur Gameblog, hein, d'après nos sources extrêmement bien placées, au-delà du départ de Julien Merceron, le responsable de toute la technologie chez Konami, du Fox Engine entre autres, eh bien c'est l'arrêt ou l'annulation des projets AAA. Ça ne veut pas dire console chez Konami, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura aucun jeu console Konami, mais c'est les gros jeux, hein, les PES, eux continueront, c'est la seule grosse licence. Mais en revanche, les Metal Gear, malgré ce qu'ils avaient annoncé d'un nouveau Metal Gear, une nouvelle licence, enfin une nouvelle série de Metal Gear, on recrute, etc., on m'a confirmé que c'était faux. Silent Hill, bah, c'est annulé. Castlevania, bah, vous reviendrez à la Saint-Glinglin. Et d'autres projets non annoncés ont été killés. Donc, bon, bah, plus petit stand. Et il y avait des acteurs aussi du téléphone portable habituel qui avaient des gros stands d'habitude. Et là, bah, pas trop. Sauf certains, comme Psy Games, Carole, avec le stand complètement dingue.
Ouais, il y avait un super stand avec un énorme bateau d'un jeu qui est sorti il y a 2 ans. Donc, on n'a pas tout de suite compris avec Julien, qui s'appelle Grand Blue Fantasy, qui est un RPG japonais, un free-to-play. Hein,
sur iOS et Android.
Qui a l'air magnifique, avec un très bel univers, un million de personnages. Ça a l'air assez fantastique. Et effectivement, le stand était gigantesque. Hein. Il y en avait partout, et même dans le métro, des
partout,
affiches.
Partout. Ils ont acheté le TGS.
Exactement. Et dans le métro, on voit que ça. Des sacs. Tout le monde avait les sacs, effectivement. Hein. Même nous, on en a ramené des grands sacs, effectivement, pour véhiculer cette publicité sur tout le salon.
Et quelque part.
C'est assez exceptionnel. Mais des jolis stands. Hein. Il n'y avait pas que celui-ci. Effectivement, ouais. C'était le plus beau.
Capcom a vraiment fait de l'effort de décoration. d'action, etc. Capcom avec Monster aussi. Hunter, Street Fighter, les.
Il y avait du Resident Evil. Il y avait du Resident aussi. On avait notamment le côté Resident Evil 0 avec. On vous racontera tout à l'heure.
Pas tout à l'heure, mais dans nos impressions qui sont d'ores et déjà en ligne ou pas.
Ou pas.
En fonction du moment où vous les regardez.
Il y avait un stand de tir qui était attenant au stand Capcom. On avait également une petite zone pour jouer à Umbrella Corps. Donc, c'était assez sympa. Et moi, ce qui me plaît sur le TGS, et c'est toujours la même chose, j'ai l'impression, j'y étais pas l'année dernière, mais j'y étais les deux années précédentes, c'est qu'il y a beaucoup de monde, toujours beaucoup de monde, et encore plus apparemment cette année. Mais on peut marcher tranquillement entre les allées. Ça respire.
Les jours business.
Je parle des jours business.
Oui, il faut préciser que là, c'était les deux jours business que vous avez vécu pour l'instant.
C'est une autre ambiance.
C'est un petit peu.
C'est la marée humaine.
Mais tu vois, par exemple, à la Gamescom, moi qui ai fait la Gamescom, toi, Julien, par exemple, je crois savoir que tu n'as jamais été à la Gamescom.
Non.
Même les jours que business à la Gamescom, c'est déjà assez étouffant. Alors que là, au TGS, ben, ça respire. Je trouve que le salon est élégant. En tout cas, voilà, il a su garder son élégance. Et puis, il y a toujours cette ambiance.
Très festive.
Très festive. Avec les babes, moi je trouve qu'on n'en voit plus du tout sur les salons, que ce soit la Paris Games Week, que ce soit la Gamescom à l'E3. On ne voit plus les babes. Et moi je trouve que ça fait partie.
Merci Marie.
Ça fait partie. T'as raison, ça fait partie un petit peu de l'univers du jeu vidéo finalement. Et puis en plus au Japon, elles sont hyper, hyper cute.
Elles sont
hyper
super mignonnes. Cool. Et surtout elles sont respectées. C'est-à-dire que les mecs qui arrivent en photo, ils arrivent, ils demandent est-ce qu'on peut prendre la photo, oui, machin, etc. Enfin. Bon, bah effectivement, nous on se cache pas, ça fait partie du décor en Moussy, ça fait partie de l'ambiance. C'est bien aussi qu'il y ait des babes hommes, et il y en a d'ailleurs, certains qui sont cosplayés. On va vous montrer dans une vidéo complètement dingue, parce qu'on parle pas que des nanas, mais en tout cas que ce soit, eh bien, de l'entertainment, du divertissement. Et ils ont pas oublié de faire des petits stands avec des choses où on peut s'amuser. Alors il y a le stand de tir, on vous l'a montré. Il y a le truc pour passer dans Metal Gear, il y en a pour faire des espèces de cartes PlayStation assez sympas. Pareil, ça, vous avez les vidéos ou vous aurez les vidéos sur Gameblog, mais c'est un salon qui a pas oublié que le jeu vidéo c'était du divertissement et du jeu, et ça fait plaisir.
Bah, c'est ce qui fait qu'il est totalement en marge des autres salons.
Hein.
Il est vraiment différent. Alors effectivement, c'est le Japon. Le Japon, c'est vraiment un autre monde. Mais effectivement, par ses babes, ses animations, son ambiance, son côté un peu enfantin, parce qu'on a tous les personnages de jeux vidéo, toutes les mascottes qui se déplacent, qui se baladent sur le salon. Il y a vraiment un truc. Les animations, les groupes de J-pop qui viennent faire des performances sur scène. Là, tout à l'heure, on a vu le créateur Ryo Mito, le créateur de Senseiya, qui s'amusait avec des pom-pom girls sur la scène de.
Avec un costume de Chevalier d'Or.
Bandai Namco, avec son costume de Chevalier d'Or que tu as d'ailleurs tweeté. Voilà, donc c'est assez marrant. Tu verras jamais ça en France ou même à l'E3. Après, l'E3, c'est plus sérieux.
Mais ça ne l'était pas il y a quelques années. Puis ça l'est un peu devenu,
moi,
devenu un peu triste.
Mais au-delà de l'aspect festif, du coup, au niveau des tendances, tu parlais là de beaucoup de jeux mobiles, mais est-ce que le jeu, on va dire, traditionnel, reprend un peu du poil de la bête, hein. On en est à peu près sûr que le jeu vidéo japonais de grande ampleur est en train de ressurgir un petit peu. Ça, c'est quelque chose qui se ressent bien sur le salon aussi.
Bah t'as raison, hein. Bon, le décor, la fête, c'est sympa, mais enfin les jeux, ils étaient où? On avait peut-être un petit peu peur en partant pour ce TGS, mais c'était comme l'année dernière, et l'année dernière on avait été plutôt agréablement surpris, qu'il en manque un peu du jeu vidéo traditionnel. Bah il y avait beaucoup. Alors après, bon, il y a beaucoup de jeux très japonais, mais vraiment très très japonais, beaucoup de JRPG très pointus, la plupart ne sortiront jamais chez nous d'ailleurs, beaucoup du coup de RPG ou de jeux qui se ressemblent un peu, et les japonais ça ne les dérange pas du tout, nous occidentaux ça peut coincer un petit peu plus. Autre élément notable, c'est que, bon, beaucoup sortent, clairement, hein, la console c'est la PS4 maintenant, d'ailleurs il y a beaucoup de jeux qui sortent sur PS3 aussi et sur PS Vita, mais PS3 comme PS Vita étaient quasi absolument absentes du salon, c'est-à-dire qu'à chaque fois c'est les versions PS4 qu'on montrait, même si la PS Vita, y a bien qu'au Japon, mais au Japon en tout cas, elle continuait à faire son petit bonhomme de chemin, à se vendre à quelques dizaines de milliers d'exemplaires.
C'est ce que j'allais te demander justement par rapport à la Vita. On a l'impression qu'il y a une espèce de remise en avant avec ce TGS pour cette console. Il y a énormément d'annonces qui sont faites dessus, de portages aussi. Tu confirmes?
Parce qu'au Japon, c'est pas la cata du tout au Japon. Hein. Ouais. C'est pas une console qui se vend comme des petits pains, mais elle fait son petit bonhomme de chemin. En tout cas, elle est pas morte. En Occident, elle est morte, la PS Vita. Il n'y a plus rien qui sort, ou quand ça sort, c'est tellement niche que ça vend à quasiment que dalle. Elle est plus poussée en termes commerciaux et tout, alors qu'au Japon, c'est pas le cas.
Au Japon, tu vas dans les boutiques, il y a 1 milliard de jeux sur PS Vita. Ça n'a rien à voir avec les boutiques françaises. Et par contre, ce qu'on peut souligner sur ce salon, en termes de jeux, c'est qu'effectivement, il y avait plein de jeux, beaucoup de jeux japonais, encore une fois, mais il n'y avait pas, et c'est ce qu'on disait hier ou aujourd'hui, peut-être, je ne sais plus, on en discutait, il n'y avait pas de jeu, voilà. Le jeu du salon. Là, vous nous demandez tout de suite, alors c'était quoi pour vous le jeu du salon? Il n'y en a pas.
Il y a des jeux qui nous ont plu.
Petit Gravity Days 2.
On l'a pas vu plus. Même Attack on Titan, moi j'avais vraiment hâte de pouvoir le tester. Pas sur le salon, quoi.
Il y a des trailers.
Il y a juste eu le trailer qu'on avait d'ailleurs déjà vu, qui avait été diffusé il y a 3 jours. Mmh. Donc rien de plus, rien de moins. Il y a même plein de jeux d'ailleurs où c'était que des trailers, hein. Clairement.
Des trailers ou des vidéos de plein d'extraits de gameplay, etc.
C'est un peu dommage. Ouais, je trouve que ça manque. Ouais, ça manque de. Waouh.
Il manque les jeux événements, quoi, qui porteraient vraiment le marché de la console. Mmh. Après, c'est ce qu'on a dit, hein, beaucoup de jeux japonais, etc. On peut pas non plus, faut être clair, le critiquer. Je veux dire, c'est un salon japonais qui se recentre sur la production japonaise, avec plein de jeux occidentaux aussi. Hein. Il y a Uncharted, il est là, Star Wars Battlefront est là, et d'ailleurs avec une grosse scène, enfin plein de trucs. Mais clairement, bon, c'est un focus sur le Japon, mais quelque part, c'est normal, c'est leur salon et c'est un salon consommateur, faut pas l'oublier. Hein. C'est pas qu'un salon professionnel comme le 3. Là, dans les 2 jours à venir, tout le week-end, c'est ouvert au public et c'est quand même globalement des centaines de milliers de personnes qui vont déferler. Donc, ils ont envie de voir les jeux auxquels ils vont jouer. Et on sait que le marché japonais est quand même très tourné vers les jeux et la production japonaise. Après, moi, j'en ai discuté un peu avec des développeurs, etc. On me confirme définitivement que les équipes japonaises, encore aujourd'hui, ont du mal à franchir le cap des méga-productions occidentales. Pourquoi ? Parce qu'ils ont du mal à faire fonctionner leurs équipes au-delà de quelques centaines de personnes. Et que pour aujourd'hui, pour être performant et faire un truc de ouf sur la PS4, la Xbox One ou le PC, il faut des équipes de plusieurs centaines de personnes, voire de milliers de personnes pendant des années. Et que ça, pour ça, il faut être extrêmement organisé, très carré. Chose qu'on se dirait, les Japonais sont très carrés, ils sont super organisés. Bah oui, mais ils n'ont pas cette culture-là en termes d'entreprise, de productivité et de manière, des méthodes de travail bien assimilées pour le faire. Donc, ils n'y arrivent toujours pas. Et du coup, on a beaucoup de jeux PS4, PS3, PS Vita, où quand tu regardes la version PS4, clairement, tu te dis, c'est une bonne version PS3 poussée, mais c'est pas non plus la folie technologique, quoi. T'as aucun jeu qui arrive à la hauteur d'un Star Wars Battlefront, t'as aucun jeu qui arrive à la hauteur de ce que semble être Uncharted 4, etc. T'as des jeux qui ont une patte esthétique, comme savent le faire les Japonais, qui est vraiment talentueuse, avec des belles textures, de beaux trucs, etc. Mais sur les JRPG, la plupart, sauf hormis peut-être FF15, ça reste quand même globalement des bons couloirs, un peu vidos, plus ou moins jolis esthétiquement, qui aliasent plus ou moins fortement, voilà. Donc, oui, le marché japonais est définitivement, mais ça fait quelques années qu'on l'a quand même intégré, de nouveau un marché à part.
Avant de reprendre le cours normal du podcast, je vais quand même vous demander quels sont vos coups de cœur à chacun pour ce petit TGS. Vous avez vu pas mal de jeux, donc vous avez eu l'occasion quand même d'avoir des jeux qui vous plaisent, n'est-ce pas ?
Honneur à Karen.
Alors, moi, y en a eu quelques-uns qui m'ont plu, donc j'ai pu tester, d'ailleurs j'ai donné mes impressions hier, Dragon Quest Builders.
C'est bien ça.
Qui est en fait un peu un Minecraft-like, en fait, dans l'univers de Dragon Quest, et qui est super mignon.
Alors, sa petite info, on me disait que Minecraft au Japon n'a pas connu le succès avec le PC, mais grâce à la PS Vita. quand il est sorti sur PS Vita, il a commencé à très bien marcher.
Ah ben moi, moi, Minecraft, j'ai commencé à y jouer sur PS3, pour te dire, quand il est arrivé sur console, effectivement.
Et du coup, comme Dragon Quest Builders, il va sortir aussi sur PS Vita.
PS Vita, PS3 et PS4. Voilà.
Il y a des gens qui pensent que ça pourrait vraiment très très bien marcher. Hein.
Le jeu sortira encore une fois encore qu'au Japon, encore qu'un jeu japonais, mais en tout cas super super mignon avec effectivement
le bon plagiat Minecraft,
les mécaniques,
avec la sauce Dragon Quest,
toutes les mécaniques qu'on trouve dans Minecraft, effectivement l'artisanat avec une petite histoire en plus, donc voilà, très très mignon. On peut dire que c'est mon coup de cœur, et effectivement aussi, mais ça c'est pas un nouveau jeu hein, Resident Evil 0 HD Remaster.
Ah, je m'y attendais pas.
Je suis très rapidement à ça. Voilà. Et c'est. Waouh, c'est beau. Ouais. Qu'est-ce que c'est beau.
C'est beau.
C'était déjà beau sur GameCube, mais c'est encore plus beau. Donc je vous en parlerai lors de prochaines impressions. Mais en tout cas, c'est vraiment. C'était vraiment un bon moment. Un petit moment, un court moment, mais très bon. Et voilà, ça, je peux dire que c'était les deux.
Court moment avec un vieux jeu.
Un vieux jeu malheureusement, mais bon voilà, on peut pas dire qu'effectivement c'est ce qu'on disait. Hein. Pour moi, le salon manque de le vrai gros jeu nouveau qui arrive. Il y avait effectivement Star Wars Battlefront.
Pour nous, hein, parce que Monster Hunter Cross,
il y avait Street Fighter 5, enfin il y avait plein de choses. Hein. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai été encore plus charmée par un Resident Evil 0 que certains autres jeux.
C'est un peu flippant d'une certaine manière.
Ouais.
Bon, toi, Julien, tu fais le malin là, à dire un vieux jeu c'est flippant et tout, mais qu'est-ce que t'as comme petit coup de cœur à me proposer ?
Un vieux jeu, a été annoncé il y a longtemps,
mais
en 2016, c'est Nioh. Nioh chez Koei Tecmo, la team Ninja. Ambiance Onimusha.
Ambiance The Witcher aussi avec le character design, non ?
T'as vu ?
Ah ouais, tellement.
Ouais. Non, mais c'est Gérald,
exactement
quoi.
C'est Gérald de Rive.
Putain, et vraiment, là, c'est copier-coller. Hein. Mais les Japonais, là, entre Dragon Quest Builders et ça,
ils aiment bien copier les Américains.
Ils aiment bien copier. Hein. Ou les Polonais. Avec,
les Polonais, en l'occurrence.
Sure. Donc, oui, il m'a fait belle impression, etc. Mm-hmm. Ça, c'est plutôt cool. Le Gravity Days, alors je ne parlerai pas du 2 parce qu'on ne l'a pas vu hormis le trailer, mais la remasterisation, moi, j'avais énormément aimé sur PS Vita, donc le voir arriver sur PS4, en plus, il est bien refait, etc. Ça a l'air vraiment chouette. Donc, ouais. La réalité virtuelle avec le PlayStation VR, on vous a fait plein d'impressions sur Gameblog, on a joué à 1000 démos.
1000 Mais c'est incroyable, vous avez eu tout ce temps.
400, ouais, ben tiens, on n'a pas arrêté. mais bon, techniquement, il y a encore des trucs pas parfaits. En termes ludiques, clairement, il n'y a toujours pas, hormis peut-être Playroom VR, de vrais jeux. C'est surtout des petites expériences, etc. C'est ça qui est dommage quand même.
Moi, j'aimerais voir, tu vois, par exemple, une expérience comme Kitchen se transformer en jeu. Parce que c'est vraiment fantastique.
Mais néanmoins, je maintiens que la réalité virtuelle, il y avait Oculus aussi qui était là, etc. Il y avait dans d'autres petits stands qui utilisaient du Oculus pour faire des trucs de relaxation zen. Enfin bon, la réalité virtuelle, définitivement, me séduit. Il lui manque les killer apps, quoi. Ça va toujours être la même histoire. Mais par exemple, tu vois, j'ai joué à Summer Lesson de Namco Bandai, où tu as des nanas et tout, un peu sympa, et qui viennent te demander des cours de japonais, et tu regardes. Et ben, je te jure, en fait, c'est pas l'intérêt du truc, ça, oublions ça. Mais c'est la sensation que tu as d'être dans ce monde-là, et très rapidement, dans ta tête, tu fais, mais ben là, je suis en train de papoter avec une meuf qui est quand même plutôt sexy, et comment je me comporte, même si elle est virtuelle, je la regarde, je regarde un peu derrière, je machin. Alors, Marla, une fois de plus, on t'aime. Mais néanmoins, c'est assez déroutant et donc assez fascinant. Et ça, il y a que la réalité virtuelle qui le procure, parce que si c'était un jeu traditionnel avec une manette, j'en aurais rien à faire. Mais alors, strictement rien à faire. À la limite, je dirais, c'est ridicule. Mais là, ça va chercher des choses humainement assez inédites. Tu vois, comment elle s'appelle ? Hatsune Miku. Hatsune Miku, c'est pas du tout mon truc. Bah là, il y a une expérience Hatsune Miku où t'as avec le PS Move. Tu secoues le truc comme tout le monde dans la foule, t'es dans la foule. T'inquiète pas, je sais gérer mes mots. Et tu fais comme ça, et après tu montes sur la scène avec elle et tu danses, et c'est la folie. Mais j'ai super kiffé. Donc, non, c'est. La réalité virtuelle, pour moi, c'est définitivement un truc extrêmement intéressant à suivre.
Bon, on va laisser vous reposer maintenant. Hein. Vous en avez assez bavé comme ça. Merci pour votre petit ressenti depuis Tokyo, depuis le TGS. Puis on se retrouve bientôt, évidemment, à la maison, hein, chez nous, chez Gameblog. Ciao les enfants, à très vite.
Exactement. Mais bon, on a quand même parlé globalement. Enfin, je veux dire, le TGS, oui. Vraiment définitivement, c'est console, c'est portable, c'est recentré aussi sur les écoles, etc. Et c'est vraiment japonais pour les japonais. Mais ça, nous, vu d'Occident, ça peut nous... mais il ne faut pas oublier que ce que c'est un salon pour les joueurs japonais. Voilà.
D'accord. Bon. Eh ben, je vous dis au revoir quand même. Hein. Je vous embrasse très fort, comme tout le monde dans le podcast.
Bon podcast.
Et puis, bah, comme je vous disais, on se retrouve bientôt à la maison. Allez, ciao.
Bisous.
Bon, bah, les copains, vous avez entendu les sensations, les impressions de nos reporters de choc et de charme. Je me tourne vers vous maintenant concernant ce TGS qu'on a vu de Paris. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné jusqu'ici? Est-ce que vous avez des coups de cœur en termes de jeu, ou est-ce que vous rejoignez un petit peu l'avis de Julien et Carole concernant le fait que c'est quand même un salon qui est très, très ciblé, voire trop ciblé japonais peut-être?
Ah, ils ont totalement raison. Ouais. C'est clair c'est un salon qui a eu des vocations clairement international à un moment, même s'il avait toujours sa différence et que ça a toujours été un salon à la fois, enfin surtout public, c'est aussi professionnel, mais c'est quand même très axé grand public avec toutes ces attractions, etc. Et là maintenant c'est totalement
centré sur le Japon,
Enfin je veux dire, il n'y a pas eu d'énormes annonces de jeux AAA d'ailleurs. Moi c'est ça que je retiens surtout, c'est que il y a eu des trucs sympas, des annonces sympas,
ouais.
Mais ça manquait de quelque chose de, enfin d'un point culminant quoi.
Comme ils me le disent, ça manquait du jeu quoi en fait.
Ouais carrément je trouve. Après il y a des trucs assez sympas. Moi j'étais content de découvrir dans la conférence Sony, qu'il faut quand même le
oui,
dire.
C'est ce que j'allais dire. Il y a que la conférence.
Voilà, elle était meilleure que celle de l'année dernière.
Oui,
déjà.
Oui,
il y avait des choses qui pouvaient nous intéresser nous occidentaux hein, même. On aime beaucoup les jeux japonais etc. Mais c'est bien d'avoir de la variété. Et puis par exemple de voir que Gravity Days 2 a été annoncé ainsi que le remake du premier. Donc moi j'ai trouvé ça pas mal, mais sans plus quoi.
Ouais. Ouais,
d'une manière générale.
Traz?
Je suis assez d'accord avec Julo. C'est un salon nippon. Donc
ouais.
ça fait quelques années que ça dure. Donc oui, il y a pas forcément des choses extraordinaires.
Mais alors du coup, est-ce que c'est encore intéressant pour nous journalistes occidentaux de nous rendre sur ce genre de salon?
Eh ben, je pense que ça va faire débat, parce que oui, ouais, on peut se poser la question. Maintenant,
la plupart des jeux qu'on nous montre là-bas, ils sortiront jamais chez nous.
Peut-être pas la plupart, mais
dans très longtemps.
Parce qu'il y en a pas mal des jeux japonais qui sortent chez nous. C'est des publics de niche, mais voilà, c'est des niches qui existent, y compris chez nous. Je pense que ces gens-là qui aiment justement ces jeux, voilà, il y a un Danganronpa qui a été annoncé, un nouveau.
Exactement.
Aussi.
C'est le kiff total.
Il y a des tas de gens qui surkiffent ça, et d'ailleurs, c'est des bons jeux dans leur style.
Là où c'est un petit peu dommage aussi, c'est que on attendait beaucoup de trucs. Moi effectivement, mon coup de cœur c'est Last Guardian. Je m'attendais à avoir vachement plus de choses parce que c'est au Japon, parce que c'est fait au Japon, etc. Mais finalement il y a rien quoi, il y a quasiment rien.
Comme nous l'a
précisé Julien,
la petite réaction
où
Tricot te suit de la tête
en grandeur nature,
quand tu te places devant
super,
un écran géant.
Génial, on voit toujours la même chose depuis 5 ans,
ouais.
Si c'est pas plus, toujours. Donc moi je veux bien, mais il y a quoi d'autre après quoi, enfin je sais pas quoi. On reste vraiment sur notre faim, hein. Effectivement, Julien a réussi à avoir des scoops sur Merceron.
Ouais, Julien Merceron qui
quitte Konami,
etc. Qui a quitté Konami, hein.
Konami qui fait plus de jeux AAA. On va dire que ça c'est quand même pour moi les deux plus gros scoops qu'on a eu sur le salon quelque part, avec les annonces de Sony, les baisses de prix de la PS4, etc. au Japon.
Ouais.
Que ça va arriver chez nous.
On s'est pas emmerdé pendant la conférence.
Il y a quand même eu des trucs, hein, on peut pas dire le contraire. Mais en termes de jeu, vraiment, il y a pas grand chose quoi.
Moi, mon coup de cœur personnellement,
ouais,
c'est un jeu d'ailleurs qui a été présenté pendant la conférence et qui sort il sort pas de nulle part.
Il sort d'outre-tombe.
Il sort d'outre-tombe plutôt que de nulle part. C'est Nioh.
Ouais.
Donc un jeu Koei Tecmo ou Tecmo Koei, je sais plus jamais dans quel ordre on l'avait. C'est comme Bandai Namco,
Koei Tecmo.
Koei Tecmo.
Ouais, absolument.
Et c'est la Team Ninja qui bosse dessus apparemment. Et j'ai trouvé ça plutôt classe, parce que c'est vrai que c'est un salon dans lequel on a vu beaucoup de RPG classiques japonais, des choses colorées, des choses kawaii et tout. Et c'était un petit peu une touche qui me plaisait plus, le Japon médiéval mélangé avec tous les... le bestiaire
La mythologie, le folklore
japonais, voilà. Et ça ressemblait à s'y méprendre à un Onimusha de la bonne époque.
C'est
joli, c'est classe. Julien a pu le voir de plus près et il a fait des impressions qui sont assez enjouées, hein. Je crois que lui c'est aussi un de ses coups de cœur du salon, comme il le disait tout à l'heure. On voit d'ailleurs le héros qui ressemble à s'y méprendre à Geralt de The Witcher. C'est assez étonnant.
il a, on dirait même un petit peu le héros du premier Onimusha, on va dire occidentalisé et,
ouais, c'est vrai.
Et aux cheveux blancs.
Mais en tout cas, c'est un jeu qui a l'air techniquement cool. Ça ressemble plus à un triple A que tout ce qu'on a pu voir à droite à gauche. D'ailleurs, on se dit heureusement qu'il reste Square Enix, parce que c'est vrai qu'ils
ont fait le show, hein, quand même.
Bah, ils avaient pas mal de trucs à montrer. C'était un acteur hyper important à l'heure où, quand même, au Japon, ça se sent clairement. Et Julien ne disait pas le contraire, c'est le marché est complètement parti du côté
des mobiles. Hein.
Des mobiles.
Ouais.
Et où le jeu sur console, tu vois, la PS4 marche plutôt bien là-bas, mais c'est quand même pas un carton. Hein. D'ailleurs,
bah, c'est pour ça qu'ils ont baissé le prix.
Bah, si le prix baisse là-bas, alors peut-être qu'on va annoncer une baisse de prix ailleurs, mais tu vois, c'est même pas sûr, je pense.
Ouais, parce que là-bas, tu vas l'acheter, c'est quand même 250€ hein, ouais, la PS4. Cher, ouais. C'est vraiment pas cher maintenant. Enfin, à partir du 1er octobre, pardon, au Japon.
Donc voilà, Nioh, pas mal. Et moi, j'étais assez content aussi de voir qu'on avait. Voilà, c'est ça, qu'on avait dévoilé un nouveau trailer de l'attaque des titans.
Il y a même eu du gameplay qui a été montré.
Attack on Titan. Et il y a eu du gameplay qui a été montré sur scène en live durant le salon. Comme on fait souvent au Tokyo Game Show, tu sais, il y a souvent donc il y a les bandes annonces et puis il y a des rendez-vous après sur les stands publics où les gens viennent autour et regardent un peu ce que les gens ont à montrer. Et en l'occurrence, bon, même dans le premier trailer, on a vu un peu de gameplay et puis après il y a eu cette grande séquence. Bon, alors ça n'a pas l'air d'être le jeu du siècle, mais quand on est fan, ce qui est mon cas, moi j'adore. Si vous n'avez pas vu l'attaque des titans, franchement, Attack on Titan. Il faut absolument voir cette série. C'est sur Netflix d'ailleurs.
C'est comment on l'appelle en japonais? Shingeki
no Kyojin.
No Kyojin.
Shingeki no Kyojin, ouais, c'est ça. Et donc, le design a l'air super. Voilà, parce que pour l'instant, on avait juste eu un jeu 3DS qui était bon. Voilà, c'est un jeu 3DS. là, ça a un peu plus de gueule. Voilà, on voit les phases où tu peux voler comme ça avec l'attirail qu'ils ont et qui permet de tourner autour des titans et de leur couper la nuque. Là, parce que c'est comme ça qu'on les tue.
J'ai trouvé chelou les titans, mais bon.
Ouais, mais c'est ça qui est. C'est, faut que tu vois la série, hein, parce que ils sont méga chelous. Ils sont méga chelous et on comprend pas. Il n'y a aucune émotion qui transparaît. Ils sont tous zarbis.
C'est des zombies.
Ils ont des sourires carnassiers. Et ils marchent un peu bizarrement.
Et j'aime bien le dernier.
Ouais, les derniers zombies là. les derniers
titans.
Derniers titans, ouais. Donc ça, j'étais assez content de le voir à nouveau. Voilà.
Mais sorti de ça.
Bah non, mais Last Guardian, il a raison, Traz. Moi, je suis impatient de le voir, mais cela dit, je trouve ça un peu chelou que voilà, on montre pas plus, qu'il soit pas vraiment jouable sur le salon. C'était le titre de Traz.
Franchement, celui-là, il est fantastique.
Voilà.
Très bien. Je rappelle, Nioh sortira en 2016 au Japon sur PS4.
Ouais.
Et Attack on Titan, lui, ça sera PS4, PS3, Vita, pareil, en 2016.
Un petit truc marrant à noter aussi, excuse-moi, c'est.
Julo.
Ubisoft, c'est les partenaires de tous et de tout le temps et de tout le monde.
Ils étaient présents avec.
c'est les bisounours.
Ouais, non, mais. Tu sais, il y a une console qui sort, Ubisoft, ils sortent 3 jeux. Ouais. À chaque fois, il est toujours là pour représenter et tout ça. Et donc là, il était à la conférence PlayStation pour montrer.
For Honor
et Jack l'Éventreur dans Assassin's Creed. C'est un peu étonnant.
Le syndicat.
C'est le petit sursaut international du Tokyo Game Show à un moment donné.
Je pense que le coup de corps de Rami, c'est MGS5.
Ouais. Ah bon? Mais MGS5 est déjà sorti.
Bien sûr. Mais la partie multijoueur cette fois, MGS Online.
Ah, est-ce qu'on a eu des infos enfin un peu plus?
Et toi qui joues comme un bourrin, tu dois être content.
T'as déjà fait les 25 fins, ça y est.
Ouais, j'ai fait toutes les fins possibles. Non, mais.
Non, pas toutes.
Non, pas tout. Il manque encore des choses.
Il te manque la fin.
Bien sûr. Et du coup, la partie multijoueur, c'était un peu cool de voir un peu avec les 11 minutes de gameplay, de voir les différentes classes, de voir un peu comment on peut se débrouiller sur le terrain, soit cela joue infiltration, soit faire comme moi, ça jouait gros bourrin et tout péter.
Alors,
sur le terrain.
Rappelle-moi juste, ça va être quelque chose de compétitif, équipe contre équipe.
Oui, équipe contre équipe.
Il y aura une équipe qui va devoir s'infiltrer quelque part et l'autre qui va devoir essayer de les choper parce que. Pour un jeu d'action,
ouais.
C'est peut-être un peu. Enfin, c'était déjà le cas avec les précédents Metal Gear Online.
Bien sûr.
Mais peut-être que pour un jeu d'action, c'est peut-être encore un peu rigide, non?
C'est vrai que ça reste. Après, c'est dans la même veine que le gameplay qu'on avait dans MGS5. Donc, tu contrôles Snake, tu contrôles le même perso.
Attends, on pourra fultonner ses adversaires.
Oui, on peut fultonner ses adversaires.
Attends, je vais pouvoir fultonner des gens en ligne.
Non, mais tu les emprisonnes. Après, je pense pas que tu les gardes avec toi. C'est encore très flou.
Et après, le mec est prisonnier. Je sais pas qu'il veut aller en ligne. Il se retrouve dans ta base et tout. Il veut s'enfuir.
Ah non, mais attends, tu peux fultonner des gens réels. Oh la vache, c'est bon, je me le fais.
Tu te le fais? Ouais. Non, mais c'est enfin, après, faut voir un peu comment ça s'articule au niveau du multijoueur, les compétitions que va mettre en place Konami. Donc, du coup, on va voir comment ça va être, comment ça va durer dans le temps, etc. Et pour l'instant, ça a l'air plutôt cool après les 11 minutes de gameplay. Enfin, en tout cas, je suis hypé. Tu vois, dès que c'est MGS, je suis hypé. Donc...
Comme d'hab,
exactement. Mais qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ce qu'on a vu en termes de gameplay, justement?
C'est qu'ils proposent vraiment différentes classes en fait, de pouvoir jouer de sabre, comme on veut en fait. Tu peux te la jouer infiltration et avoir ton camo, être totalement invisible et te la jouer vraiment
camouflage optique.
C'est ça, et te la jouer comme Snake ou foncer dans le tas comme moi j'ai envie avec la grosse armure.
Ah, comme tu le fais en live d'habitude.
Absolument. Arriver avec mon D-Walker et tout péter quoi. Et du coup, on peut essayer. Enfin, c'est vraiment des classes qui ont l'air vraiment d'être complémentaires. Et du coup après, j'attends de voir quand même une fois manette en main pour voir un peu jusqu'où on peut aller, est-ce que en termes de d'armes etc, qu'est-ce qu'on pourra faire, etc.
Peut-être aussi en termes de jeu par équipe, puisque bien visiblement sûr, ouais. ça va se passer par équipe, savoir si on va pouvoir développer des stratégies intéressantes pendant pendant les affrontements, mine de rien.
Et du coup en plus il y aura des persos, il y aura les persos du jeu principal, à savoir on pourra jouer avec Snake ou encore Ocelot. Faut voir un peu ce que ça apportera de
ils vont en mettre qu'un seul par équipe parce que sinon tout le monde va vouloir être Snake et Ocelot.
Parce que sinon on va se retrouver avec une multi.
Quand on a Metal Gear Solid 5, c'est un DLC gratos qui va se rajouter
en
au
fait,
jeu.
En fait, t'as un code,
activé. Ah oui, qui file avec le jeu.
J'ai essayé d'activer, qui n'avait pas marché, c'était normal.
C'est ça, ouais. Voilà. tu te retrouves avec un code que tu pourras activer le 6 octobre sur PS4, Xbox One et en janvier sur PC.
D'accord, très bien. Donc ça, c'est le truc qui t'a le plus hypé de tout le TGS.
C'est très étonnant.
Oui, c'est assez incroyable. Je m'attendais à ce que tu me sortes de rien d'autre, mais
un pachinko,
un petit pachinko sur Castlevania, par exemple.
Non, mais il y aura un pachinko MGS, j'en suis sûr.
T'es sûr qu'il y aura un pachinko MGS?
Et là, il va devenir fan de pachinko.
Est-ce que ce sera de l'erotic violence? On va surveiller ça, en tout cas, avec attention. T'as évidemment un autre coup de cœur.
Mais bien sûr, un autre coup de cœur.
Ah, quand même.
C'est l'arrivée d'un acteur, animateur, chanteur,
showman,
producteur. Je sais pas, il a 20 milliards de casquettes.
Ah, mais t'as raison.
Ce mec est un dieu au Japon. Ce mec est un dieu.
Ah, mais bien sûr. C'est un dieu chez moi aussi.
C'est un dieu chez moi aussi. J'ai vérifié. Il est
officiellement reconnu comme dieu.
Absolument. Du coup,
dieu du rire, du gag,
Takeshi,
la classe.
Dans Yakuza 6.
Donc Takeshi qu'on peut connaître, qu'on connaît nous en Occident comme Takeshi Kitano.
Exactement.
Notamment pour ses films comme Hanabi, Aniki mon frère, Sonatine, L'été de Kikujiro,
Takeshi's
Films
Castle, etc.
Un peu barré,
Hotel Royal,
et son jeu vidéo qui est sorti dans les années 80 sur NES, qui était aberrant de nullité, mais voilà, c'est un monument en fait qui va arriver dans Yakuza 6. Alors qu'est-ce qu'on a comme info à ce sujet d'ailleurs?
On sait juste qu'il sera
dans Yakuza 6.
C'est ça, cool. Merci. Comme ça, on est vraiment rassuré.
Je pense que Shay devrait prendre des noms et botter des culs. Mais bon, après.
Non, c'est pas le rôle encore qu'il aura dans le jeu. Pour l'instant,
il a juste annoncé en disant voilà, prendre des noms et botter des culs.
Pour un mec qui ne pouvait pas saquer les jeux vidéo, c'est quand même assez surprenant.
Mais ça se trouve, ça va être un personnage super relou, justement. Parce que quand il a fait son jeu vidéo sur NES, il a voulu faire le jeu le plus relou de tous les temps.
Il a remis ça, c'est tout.
C'est
un bon gros chèque en même temps.
Avec les Yakuza, ce qui est bien, c'est qu'au niveau de la modélisation des visages et des modèles des persos, c'est vraiment vraiment super. Et du coup, là, je pense qu'on peut attendre d'avoir un Takeshi Kitano.
Surtout que il pourrait faire un bon méchant.
Mafieux.
Avec son tic là,
bien relou.
Son tic nerveux là, dont il a hérité après son accident de moto.
Il est fou en vrai, Kitano, ou pas? Parce qu'on dit que je suis fou, mais lui, il est vraiment fou.
Et c'est pas le même style.
Je pense que c'est ouf.
Non, non, mais c'est pas sûr.
Non, franchement, lui, il est fou. Artistique, toi t'es fou.
Je suis pas sûr qu'il soit que artistique.
Il est fou tout court aussi.
Ouais. Moi je pense qu'il est fou tout court.
Il est fou, je dirais.
Ouais, bon, en tout cas, il arrive dans Yakuza 6 dont on ne sait pas grand chose, dont on ne sait même pas la date de sortie en Occident, parce qu'on ne sait même pas s'il sortira en Occident.
Il faudra déjà qu'ils sortent les autres, Kiwami, etc.
C'est en automne 2016 au Japon sur PS4 pour Yakuza 6.
Donc 2 ans plus tard en Occident.
Voilà, donc à nous, on l'aura beaucoup plus tard et on aura peut-être même des doublages en marseillais. tenez, on va vous en faire un petit extrait. Kazuma Kiroyu, tu viens me boire un pastis ou bien?
J'en mets de la vie.
Je connais pas un autre nom de personnage.
Ah, moi non plus, t'as qu'à m'appeler.
Takeshi.
Voilà.
J'en mets de la vie, Takeshi.
Oh la vache, mais tu me fends le cœur, putain, Kazuma Kiryu. Je croyais que tu étais un bonhomme. Tu es une lavette.
Putain, on est en train de faire un duo comique.
Oh merde. C'est bon, vous pouvez vous produire au Japon, les mecs.
à peu près à ça. Yakuza 6 avec la localisation façon Sega.
D'ailleurs, si vous voulez vous faire un avis sur la filmographie de Takeshi Kitano en tant que réalisateur, ne commencez pas par Getting Any. Hein. Voilà, je dis ça juste comme ça.
Ah, je le connais même pas celui-ci. Non.
C'est ce qu'il appelle son suicide artistique parce que son accident qui lui a valu tous ces trucs, il appelle ça son suicide physique. Mm-hmm. Et Getting Any, son suicide artistique.
D'accord, parce que c'est vraiment affreux.
Ouais, il y a un mec déguisé en mouche qui se fait écraser par une tapette géante dans une merde qui fait
500 km2.
Ouais. Ouais, c'est tellement lui. Voilà.
Je vous conseille Zatoichi hein, si vous avez le temps.
Ah, Zatoichi, le remake.
Mais
le
chef-d'œuvre, oui, c'est Hanabi.
Oui. Hanabi est bien, ouais.
Son chef-d'œuvre.
Non, mais Sonatine est bien aussi quand même. Hein. Même s'il était réalisateur.
Génial. Ouais.
Il était réalisateur. Ouais.
Il est assez chelou.
Bien sûr. Ouais, tu citais Battle Royale.
Non, mais tous ces acteurs, ils sont tous chelous. Hein. Ouais. Ils sont tous chelous. Franchement,
vous êtes pas chelou peut-être.
Les têtes Kikujiro. Non, mais les têtes Kikujiro, tout le monde dit oui, c'est un joli petit film mignon, mais putain, il y a des trucs super chelous.
Justement.
Franchement, c'est. Enfin bon, bref. On va pas parler plus longtemps de Takeshi Kitano.
Cette série marseillaise.
C'est tout ce que vous retenez du TGS, vous.
Vraiment. Ah bah il y a d'autres trucs,
non mais il y a plein de choses qu'on a vu, qu'on a revu.
J'attends de voir FF15 qui vont montrer samedi aussi.
Oui, alors effectivement au moment où on enregistre Final Fantasy 15, le stream n'est pas encore arrivé. Donc on ne sait pas exactement ce que nous réserve l'Active Time Report qui est prévu
Et pour les premiums qui nous écoutent, c'est demain matin.
Ouais, exactement, 6h45.
6h45.
Ah, t'as raison, ça va alors.
Soyez debout très tôt, préparez le café. Mais c'est vrai qu'après je vois pas. Moi personnellement, j'ai rien qui m'a plu vraiment.
Non, mais
y'a
rien qui
TGS.
M'a hypé vraiment.
Ouais, moi non plus. Tu vois, puis.
C'est par défaut, je retiens certains trucs. Mais...
Puis en plus, il y a eu cette nouvelle du report de Star Fox là en 2016. Ouais, voilà. Je suis un peu dégoûté.
Ça refroidit tout le monde.
Ouais, je suis un peu.
Oh, non, je suis pas bien.
Ouais, je suis pas bien.
Je suis pas bien, les gars. J'ai besoin de.
Je retiens la poitrine de Hermika.
J'ai besoin de me remonter.
La poitrine de Hermika, oui, effectivement. Il va y avoir un. Ça va être le début d'un shitstorm avec Hermika qui va être dans Street Fighter V, évidemment.
Demi nipples.
Qui va être un peu dur à gérer, je pense, pour Capcom. Mais bref. Nous avons fait le tour maintenant de notre côté du TGS. On va changer de contrée. Maintenant, on va aller direction
Turquie.
Le pays du ballon rond, messieurs. Parce que PES 2016 affronte FIFA 16 en l'espace d'une semaine. PES 2016 est sorti le premier, le 17, ce jeudi 17 septembre. FIFA, lui, va arriver jeudi 24. Entre les deux, la guerre va faire rage, évidemment. Et déjà à la rédac,
la guerre fait rage.
Il y a des dissonances concernant les avis. Alors, il n'y a pas d'avis définitif encore pour FIFA, je vous le dis. Pour l'instant, nous n'avons vu que la version EA Access. Nous n'avons pu vous montrer que la version EA Access, qui est le jeu complet, mais dans un temps limité.
8 heures.
10 heures en fait. Donc, ouais, 10 heures. Ouais, wow. T'as 2 heures de rab si tu veux.
Cool, viens, j'y vais tout de suite.
Et donc. Maintenant, je vais me tourner vers chacun des intervenants de ce podcast pour savoir vers lequel va leur préférence. Je vous donnerai la mienne un peu plus tard, évidemment.
Pourquoi, comment
Mais je vais commencer par le moins relou. Déjà, donc, c'est pas Traz. on va commencer avec toi, Rami.
Ouais.
Parce qu'on a fait quelques matchs sur les deux jeux.
Évidemment, on est classé par la
on a joué, des heures, il faut le dire, sur chacun des deux jeux.
Ouais.
Et là, Rami, si je commence en te disant... en te demandant, est-ce que PES 2016 est déjà mieux que l'année dernière par rapport au 2015?
Il est mieux sur certains aspects en termes de gameplay, c'est-à-dire qu'il rajoute quelques animations en plus, notamment le fait de pouvoir shipper des ballons par derrière, des petits trucs comme ça. Au niveau de la physique, ils sont un peu mieux gérés, je trouve. Mais après, c'est vrai que ma préférence va pas à PES cette année.
Alors, c'est quoi ce bordel? Pourquoi?
Tu te fais de notre gueule là.
Parce que sur FIFA, je trouvais que en fait, tu peux poser ton jeu, tu peux un peu mieux poser ton
mais
jeu.
Tu peux le faire aussi à PES.
Bah, à PES aussi,
oui, mais
hein.
PES, j'ai
Oui, mais c'est PES, voilà, donc merde.
Là, qu'est-ce qui te chiffonne?
Je vous préviens tout de suite, Traz, il est vénère.
Non, ouais,
je sais pas si vous commencez à sentir.
Non, mais là, ça a de la mauvaise foi à tous les niveaux.
Je pense même que PES 2016 reste très bon, mais FIFA 2016, en fait, ce qui m'a plu avec FIFA, c'est qu'en fait, cette fois, on réapprend totalement à jouer.
Ouais.
Ah ouais, parce qu'avant, c'était pas un jeu de foot, donc ok, d'accord.
Non,
moi, je suis super d'accord.
Non, mais c'est de la mauvaise foi.
Phrase
ils ont tout changé cette année, ils ont fait un jeu de foot.
Mais c'est
que. Oh là là,
tu réapprends à jouer, et même voilà. La physique de la balle, moi, je trouve bien mieux.
Tu plaisantes ou quoi? Non, bah.
Si, je la trouve. Non, mais si.
Non, mais c'est mieux par rapport à FIFA 15.
Oui, par rapport à FIFA 15. Non, pas par rapport à PES, par rapport à FIFA 15. Et du coup, je trouve vraiment, tu réapprends totalement à jouer, même au niveau des passes, ça a changé, les passes appuyées, les passes un peu normales. Et du coup, je sais pas, j'ai une petite préférence pour FIFA cette année. Parce qu'en même temps, bon, pour le 15, PES 2015 était revenu tellement de loin que voilà. Mais du coup, pour cette année, je trouve que PES a pas poussé encore un peu plus loin ce qu'ils ont fait l'année dernière. Ça reste sensiblement la même chose, à deux trois exceptions près au niveau des animations, etc. Mais ça reste les mêmes sensations. Après, moi, j'ai toujours eu une petite préférence pour FIFA.
Tu veux dire depuis le 08-09 quoi.
Oui, depuis le 09. Parce que j'ai toujours aimé les gardiens dans FIFA, etc. Mais là, pour FIFA 16, je trouve qu'ils ont vraiment travaillé un peu plus que chez que Konami. Et du coup, je m'y retrouve en tout cas un peu plus du côté de FIFA. Quoi.
D'accord. Traz, tu n'es absolument pas d'accord.
Bah non, évidemment.
Avec ça, mais pourquoi? Pourquoi? Parce que tu as joué aux deux jeux comme nous. Bah, tu les as vu tourner les deux jeux. Tu les as pris en main.
Pour moi, FIFA 16, c'est du papier, quoi. C'est FIFA 16 Unfolded.
Oh, comme ça y est, il est sorti.
Le ballon vole.
Faut savoir que c'est une blague qui nous ressort depuis une semaine tous les jours.
Le ballon vole. Les joueurs, ils sont super légers. On sent absolument pas les appuis. Quand tu fais une frappe de balle, tu sais pas si t'as frappé à la balle ou pas. T'en sais rien.
T'exagères pas quand tu dis ça.
Alors que dans PES, tu sens vraiment le ballon quand tu tapes dedans, quand tu fais une passe, quand tu centres, etc. Il y a de la tension tout le temps. Oui, effectivement, dans FIFA, tu peux bien poser le jeu, etc. Peut-être que l'IA est un poil meilleur par rapport aux autres années, en tout cas, c'est clair.
Bah, tu sais quoi, on va faire un petit.
Mieux que FIFA, que PES à ce niveau-là.
On va prendre par compartiment.
Mais pour moi, c'est pas ça le truc, c'est le plaisir de jeu. Je l'ai pas dans FIFA, vraiment pas.
Prenons par compartiment.
Est-ce que ce serait pas une question d'habitude?
Hein, mais non,
tu sais, c'est comme les gens qui ont été sur PC toute leur vie et qui refusent de.
J'essaie de jouer à FIFA, vraiment. J'ai essayé, mais je n'y arrive pas. Enfin, je comprends pas.
T'as pas vraiment.
Je n'accroche pas. Comme tu disais l'autre fois, t'avais fait une belle analogie avec un jeu de bagnole. Bah ouais, c'est vrai, les jeux de bagnole, moi, les Forza. Jusqu'au 5 et j'aimais pas parce que je sentais pas le bitume.
C'est ma théorie, je peux la développer.
Je sentais pas.
Alors, j'ai l'autre théorie. Théorie après, on fera
je sentais pas les roues ni rien machin
pour savoir.
Et franchement,
sur quel point
c'est pareil. En fait, quand je sens pas les choses, bah je.
Dis-moi,
Gilo.
C'est bien parce que t'as gardé la voix du milieu pour la fin.
Sans ça.
Non, je suis assez d'accord. En fait, ils ont tous les deux raison. Je pense que ça dépend ce qu'on cherche un petit peu dans un jeu de foot. Et c'est un peu pareil. Donc, comme disait Traz, effectivement, j'avais fait cette analogie avec les jeux de bagnole. Tu sais, dans les simulations de sport automobile, tu sens plus ou moins le poids des voitures, le contact avec le bitume, les aspérités du circuit, la physique de ces voitures dans les virages, dans la façon dont elles sont repoussées vers l'extérieur avec la vidéo, vitesse, etc. Bref, la sensation, si tu veux, d'avoir entre les mains la bagnole. Et bah, finalement, dans FIFA et PES, donc dans le foot, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'il y a une vraie différence, je trouve. Je crois que la plus grande qualité de PES, mais depuis toujours, c'est-à-dire que ça, ils l'ont toujours eu pour eux, c'est...
Non, pendant une période, je crois qu'ils l'ont pas eu.
Non, il y a une période creuse où effectivement...
Oui, les jeux étaient moins bons. Mais ça...
Quand tu seras arrivé sur Next Gen.
Le fait de sentir le joueur, de sentir ses déplacements... C'est son
les
poids.
Frappes,
son
les poids. Non, je peux dire qu'entre 2008 et 2014, tu le sentais rien du tout.
Oui, ils ont eu un passage à vide énorme. Ils ont eu un passage à vide. D'accord.
Mais
quand ils sont revenus au fondamental,
tu sens
là,
véritablement. Et puis en regardant les replays, tu vois comment le pied se positionne, comment on fera une frappe extérieure, une frappe intérieure. Tu vois le déplacement du poids quand tu prends de la vitesse et que tu tournes, etc. Alors que dans FIFA, il y a quelque chose du monde flottant. Quoi.
C'est super léger, vraiment super léger.
Tu sens pas forcément le poids, l'accroche des crampons dans le terrain et les appuis et effectivement les frappes sont moins percutantes que dans PES
mais
quelque part
pour moi c'est vraiment
je trouve
flagrant,
quand même
hein.
Je trouve malgré tout que PES et c'est là que je suis tout à fait d'accord avec Rami ils ont pas franchi un cap comme ils ont franchi
l'année
dernière
donc là ils sont sur leur lancée
ouais mais là ils sont un peu reposés sur leur laurier quand même je trouve
bah oui et non parce que comme disait Rami il y a vachement plus d'animation etc.
Je trouve que t'exagères parce que
les visages sont vachement mieux
en termes d'animation la foule d'animation qu'ils ont rajouté à mon avis ça a dû quand même leur demander
mais est-ce que t'as l'impression que moins qu'avant on ressent le fait que les joueurs sont sur des rails quand tu fais une passe en profondeur quand tu fais un 1-2 quand tu fais une passe en hauteur etc. le positionnement le fait que tu puisses pas sélectionner pendant un moment ton personnage franchement s'ils l'ont corrigé un petit peu c'est vraiment un tout petit peu
ils l'ont corrigé
et
un
moi il y a un truc qui m'a étonné quoi c'est quand on a découvert FIFA quand il est arrivé à la rédaction et qu'on a commencé à y jouer
FIFA 16
on s'est dit waouh mais ils ont pris un risque de fou en fait c'est comme s'ils avaient un peu recommencé le jeu quoi
c'est ça.
Ils ont viré des fondamentaux, ils ont donné une espèce de liberté en fait qui fait tellement respirer quand justement t'en as marre des trajectoires toutes faites et des rails qu'il y a encore dans PES. Là c'était presque déroutant, on n'arrivait pas à jouer. Moi j'avais envie de détester le jeu au départ et puis en enchaînant 2-3 parties, là je parle de FIFA, En fait, c'est intéressant. Et donc, on peut faire ça. Et surtout, les actions se ressemblaient pas les unes les autres, etc.
Ouais, ouais.
Donc,
tu penses que PES est scripté?
N'importe quel jeu est scripté.
Ouais.
Ok. Après, tu le vois ou tu le vois pas. Non, mais tu le vois ou tu le vois pas, mm-hmm. ou tu le vois moins ou tu le vois plus. Mais là, clairement, je trouve que dans PES, on a toujours l'impression de jouer les mêmes schémas de jeu, je trouve. Mais après, moi, je suis pas un expert.
Peut-être qu'on développe les mêmes schémas de jeu aussi.
On les développe parce que aussi on est bloqué par des restrictions. Parce que quand tu fais une passe en profondeur de telle manière, tu sais toujours que le mec qui doit la réceptionner, au lieu de courir comme un dératé, il va d'abord y aller doucement. Tu vas pas pouvoir le sélectionner.
Alors, je suis pas d'accord parce que que ce soit pour les appels, la création d'espace, les joueurs se comportent 100 fois mieux que l'année dernière de ce côté-là. Je suis désolé, on est obligé de le dire.
Peut-être moment, désolé, mais peut-être
il faut balancer la vérité à la face de nos auditeurs.
La vérité, la
cruelle vérité.
Le fait que l'IA ait été vraiment amélioré par rapport à l'année dernière, que surtout l'aspect stratégique, parce que vraiment l'aspect stratégique à l'échelle collective et individuelle dans PES a un impact sur le jeu qui est peut-être unique, je pense, dans le domaine du jeu de foot. Moi, je suis pas d'accord. Il y a des trucs vraiment où quand tu fais une passe en profondeur, effectivement, il peut arriver qu'il y ait un trou sur certains trucs.
Mais est-ce que tu trouves
aussi
pas
de bien prendre un autre joueur qu'un joueur de la défense, d'essayer de créer des trajectoires à couper. Enfin, tu vois, il y a des tas de choses à faire.
Ouais, mais t'as un peu plus de restrictions, je trouve. Je sais pas ce que t'en penses, mais par exemple, est-ce que tu trouves pas que quand tu es devant un match de FIFA 16 et devant un match de PES 2016, t'as pas l'impression que c'est plus du vrai foot dans le sens de la variété, des situations, des actions, etc. quand tu regardes FIFA 16? C'est cette impression que j'ai. Quand tu regardes un match.
À regarder, c'est vraiment plaisant, j'avoue. Non, vraiment, regardez, c'est super bien. C'est même plus beau, je trouve, visuellement que PES. De loin.
On peut venir en termes d'authenticité visuelle.
Mais par contre, tu parlais de l'IA. De loin. On est d'accord que l'IA du gardien, de l'arbitre, est catastrophique.
Pour FIFA ?
Dans FIFA.
Ah oui, non, mais.
Je crois qu'on s'est entendu respecter assez souvent.
Et tu parlais des gardiens, les gardiens, c'est des surhommes.
Ouais.
C'est des super-héros, quoi.
Ouais, mais tu vois, il y a toujours.
C'est des digitaux.
Mais il y a toujours des trucs qui
dégagent. Les gardiens de FIFA. Parce que eux. Enfin, j'ai toujours une préférence pour les gardiens de FIFA parce que les gardiens de PES ont toujours eu tendance à repousser la balle de manière assez.
Cette année, c'est un peu moins le cas.
Ouais, c'est moins le cas.
Cette année, franchement, on a fait quelques matchs où ils nous font même des doubles arrêts.
Parce que j'ai jamais vu un gardien de PES capter la balle. Genre,
mais c'est que ça a changé ça.
Je l'ai pas vu. Dans FIFA, il peut la capter, il la capte.
Il la capte même trop des fois, je trouve. Trop facilement.
Pour la photo, ça dépend le niveau que tu mets à chaque fois.
Non, les gardiens, ils sont largement améliorés dans PES 2016 par rapport à l'année dernière où ils continuaient effectivement à relâcher de pile devant eux dans les pieds de l'attaquant. Là, cette année, tu vois, quand ils font une claquette, c'est pas la claquette qui rebondit pile sur le point de péno, quoi. Ça va vraiment dans la trajectoire voulue parce que la physique de balle déjà s'y prête bien et parce qu'ils ont rajouté une IA aux gardiens, du moins sur leur ligne, de manière générale, parce qu'après sur certaines sorties, c'est un peu tiré hasard. C'est pas toujours extraordinaire, mais enfin, moi je trouve qu'il y a une amélioration qui est quand même largement perceptible.
Après, il y a une chose que FIFA n'a toujours pas par rapport à PES, c'est que PES joue dans l'instantané en fait.
Tu peux jouer dans la cour des grands.
Tu peux faire une passe à un joueur et vraiment direct enclencher une frappe vraiment direct instantanée.
Voilà, mais c'est ça que je cherche.
C'est un
jeu
peu plus authentique que dans FIFA où c'est un peu plus lent,
c'est un peu plus
à déclencher.
Moi, c'est ce que je recherche dans un jeu de foot, c'est comme à l'époque.
Mais
sur
ça se prépare, voilà.
Putain, mais voilà.
Ça peut se préparer. Alors, effectivement,
tu anticipes le tir, la frappe, machin.
En même temps, en vrai, dans une défense, dans la foulée, c'est dur de tirer.
Bien sûr.
Mais immédiatement.
On est dans un jeu vidéo, les gars. Là. C'est le plaisir du jeu.
Alors, oui, mais c'est ça la question.
Après,
que je me pose.
Peut-être que FIFA est peut-être trop réaliste. Hein, c'est
est-ce
possible.
Est-ce que vous préférez un jeu vidéo?
Moi, je préfère le jeu vidéo, c'est
une simulation.
Est-ce qu'on peut parler de simulation ou quelque chose qui reproduit en tout cas la réalité, l'apparence de la réalité un peu plus? Parce que là. Pour le coup, effectivement, on peut parler pour PES d'un compromis jeu vidéo,
compromis chose due,
avec un peu de réalisme. Mais il faut dire ce qui est. Les frappes, elles partent, mais tellement puissamment. Je veux dire,
c'est les footballeurs actuels, c'est ça. Hein, je suis désolé. Hein, c'est
surtout les ballons actuels.
Tout à l'heure, quand on a fait des matchs et tout ça, excuse-moi, mais les frappes, elles sont hyper réalistes dans PES toujours, parce que tu prends la balle selon un angle pas terrible. Ta jambe, elle est effectivement en reprise de volée à un angle pas terrible. La balle, elle va vraiment voler au-dessus, quoi.
Ouais. Ça, c'est un gros défaut.
Ça va jamais, aller dans les caisses, jamais.
Un gros défaut de FIFA qui est toujours là, bien présent dans FIFA 16, et il a toujours été là, c'est que au niveau physique, il se passe des trucs complètement mais oui. N'importe
tu vois, depuis tout à l'heure on dit que des défauts de FIFA hein,
non mais genre t'es dos au but, t'enclenches une frappe et le mec il fait un tourniquet sur lui-même ouais. Et la balle peut partir en lucarne. C'est pas possible.
Oui.
Mmh. C'est juste pas possible.
C'est ça qui m'énerve.
Dans voilà. PES, il va un peu tomber, il va rater sa frappe.
Enfin,
il
part en aucune... lucarne à Mach 2, surtout, c'est ça qu'il faut
aucune
dire.
Force dedans.
Hein elle part en lucarne, mais à Mach 2, surtout.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Mais c'est exactement ça.
Mmh. Donc.
Mais ça, c'est des moments rares. C'est-à-dire, ça fait partie de
des moments rares.
Oui, oui. Et il y a d'autres choses, c'est le. Je sais pas si on peut parler de blending, parce que.
Non, on peut pas.
Mais par contre.
Ah, si, le blending dans PES 2016, il est super bien.
Voilà, hein. Le motion blending, donc c'est les raccords
le
entre.
Le nombre d'animations.
Le raccord ouais. Entre les différentes animations.
Bah là, franchement, dans PES.
Quand tu regardes une animation particulière dans FIFA. Et elle est souvent enchaînée avec un petit sursaut
voilà.
Avec autre chose. Des fois, le joueur accélère sa course sans, tu vois, sans raison.
Sans liaison, justement.
Ouais, sans liaison.
Entre les deux étapes d'animation.
Il y a encore des petits défauts d'animation, je trouve. Enfin, dans les liens d'animation et dans la façon dont le joueur flotte un petit peu comme ça. Hein,
contrairement d'accord. Alors, tout à l'heure, là, on parle de FIFA en mal, mais.
Non, attends, moi, j'ai commencé par en parler en bien parce que je trouve
que le plus important. FIFA,
le plus important. Non, c'est pas ça. Moi, je vais dire un truc, ça n'a jamais été aussi difficile que cette année.
Moi, je reste.
Choisir PES. Entre PES et FIFA.
Cette année, c'est vraiment
attends, est-ce que ça a déjà été aussi difficile?
Non.
À chaque fois, il y a eu un gagnant assez marqué, quoi.
Pour moi, c'est facile, mais bon, après.
Ouais, moi, l'année dernière, je suis pas d'accord. Hein. L'année dernière, pour moi, il se valait dans un style différent et il se valait très bien, franchement. Mm. J'avais aucun souci.
Il se valait de chambre.
Après,
ouais,
bon,
ça,
FIFA avait ses problèmes de premier poteau.
C'est vrai que l'année dernière, il revenait de loin, PES, quand même.
Mais oui. Personnellement, non, c'est pas la première fois que je les vois au coude à coude. Après cette année,
ouais, c'est peut-être la deuxième alors. C'est la deuxième.
Ouais, cette année. Mais sauf que je trouve que ils ont atteint encore un niveau supplémentaire en termes de plaisir de jeu et de ce qu'ils peuvent proposer à l'écran aussi. Je sais pas si pour l'instant j'ai pas de préférence marquée. Hein, on verra au moment du test.
On verra ouais. Auquel on va jouer à la rédac toute cette année.
Voilà,
parce que très clairement sur la saison 2015, mm-hmm. 2014, 2000, attends non. Oui,
c'est ça.
Bref, c'était sur les 2015.
Hein, oui, voilà. Ouais.
Sur les 2015, à la rédac, on a joué à PES.
Ouais. Oui, parce que vous me l'imposiez.
Non, n'importe quoi. Voilà.
Oui, non.
Parce ouais, que moi, j'aimais bien FIFA.
Et moi, j'ai vachement envie de jouer à FIFA. Pourquoi ? Parce que ça me fait le même effet qu'à l'époque des PES à l'époque.
Mm-hmm.
C'est que le nouvel épisode arrive et il y a une espèce de découverte.
Mm-hmm.
Et tu dois presque réapprendre à jouer, enfin tu dois réapprendre en tout cas plein de choses parce que
toi t'as pas réappris à prendre des fessées, ça je te
ça tu de zéro,
la continuité là, il faut le dire. Je suis désolé, hein, je voulais pas t'humilier en public.
Mais
en tout cas, toute cette année, je t'ai mis que des raclés à PES.
Bah, des raclés. Tu te rappelles quand les premiums sont arrivés, je menais 3-0. Tu te rappelles à la soirée premium.
Et après, t'as perdu 5-3.
Là, oui, oh, merde. J'ai gagné, machin, j'ai eu le 3-0. Bah voilà, c'est comme ça. C'est la vie. Mais bref.
La vie est injuste. Hein,
Si on prend par compartiment maintenant. Donc, si on prend l'aspect purement technique, FIFA, PES, lequel l'emporte.
Qu'est-ce que t'appelles technique?
Visuel.
FIFA.
Ouais, FIFA, je dirais FIFA quand même.
Mais alors, un point pour FIFA.
Mais alors justement,
j'irais quand même
FIFA. Ça c'est le rendu général,
général
quand on
ouais.
Voit de loin.
Ouais, de loin.
Et après, tu sais quoi, il y a des différences
de près,
aussi. Par exemple, Ibrahimovic, il est mieux fait dans PES.
Bah voilà, je voulais en venir
et
au
d'autres joueurs sont mieux faits dans FIFA.
De près, PES c'est quand même mieux foutu.
Voilà, mais pas pour tous, évidemment.
Pas pour tous, ouais.
Non.
Après, il y a un aspect cartoon du côté
ouais,
FIFA
ouais.
Pour
oui, la putain, mais t'as vu les stades?
Ouais,
les stades.
Ah ouais.
Déjà, il y a le Parc des Princes dans. Il y est dans PES.
Le Parc des Princes,
c'est ah, il n'est pas dans PES.
Non, non.
Le Parc des Princes,
comme ça, c'est juste
que je connais bien, il est très très bien modélisé. Bon, c'est pas parfait. Hein.
Mm.
L'ambiance sonore, je sais pas si on peut caser ça là-dedans, l'ambiance sonore.
Ah bah, l'ambiance sonore, ça fait partie de l'authenticité. Genre,
ouais, voilà. Ouais, ouais,
à part au niveau authenticité, les chants de supporters, les trucs au bord du terrain, le public.
Les chants des patriotes.
Franchement, je trouve que de ce côté-là. C'est difficile de nier que FIFA est quand même un peu supérieur.
On peut parler de la pelouse qui se détériore, c'était déjà le cas l'année dernière hein, du côté de chez FIFA.
Et dans FIFA, quand tu fais une frappe, t'as de l'herbe qui saute ou pas? Non,
attends,
bah dans PES, c'est ça.
Je ne sais plus.
Attends, mais il y a la mousse de l'arbitre hein, dans FIFA.
Ouais, il y a la mousse de l'arbitre, monsieur, pour l'authenticité. Vous voyez,
la mousse,
bombes,
ouais,
les petites bombes,
depuis la Coupe du Monde.
Ouais, du coup, hop, quand tu fais la petite ligne pour le mur et Kramy il essaye de gruger, il se prend un carton jaune parce que ça se voit. Voilà, c'est comme ça. Donc là, authenticité, malgré le fait que PES a toujours la Champions League de son côté, plus des tas de coupes sud-américaines.
C'est cool la Champions League.
Des bon. Coupes, la Champions League asiatique aussi. Malgré ça,
ça reste du côté de FIFA aussi le fait que on ait une meilleure retransmission télévisée, j'ai envie de dire. Il y a quand même beaucoup plus d'angles de caméra de manière générale pour highlights, pour les replays.
Avec les jeux de bagnole, on parle, je refais l'analogie, on parle souvent de.
J'en fais le match.
Quand, dans le côté Gran Turismo ou Forza, de car porn. Tu sais, c'est-à-dire que les gens qui aiment les bagnoles.
On fait ça avec, on fait porn avec tout maintenant.
Voilà, on fait porn avec tout.
Et je peux même te dire, il y a même un compte. Mais
ce que je veux dire, c'est que.
YouPorn avec Juventus de Turin, voilà, en fait, pour You.
Mais quand un jeu transpire la passion du thème qu'il a pour base, quoi. Donc en l'occurrence Forza, tu vois que les mecs ou Gran Turismo, c'est des dingues de bagnoles, ils aiment bien modéliser jusqu'au dernier détail.
En même temps, ils n'ont pas le choix, hein.
Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que ça sent vraiment les gens passionnés. Quand tu vas dans Forza, tu peux aller consulter l'historique des bagnoles, savoir tout sur les stats. Il y a un mec qui te cause, qui te raconte l'histoire de la voiture, et tu vois ce côté là l'authenticité, quoi, vraiment. Le fait de donner à ceux qui aiment aussi et comme toi qui ont la même passion de donner tout ce que t'as, quoi. Et là FIFA,
même,
voilà, FIFA rien qu'avec sa licence et le soin qu'il apporte à l'ambiance sonore, à l'ambiance sur le terrain et tout ça, il est extraordinaire je trouve. Ça peut être mieux, hein. Mais
on n'a pas parlé des femmes d'ailleurs au passage, hein. On a fait quelques matchs avec les femmes, ça se passe très bien, c'est un peu
ça se passe très bien. Non, mais tu voudrais que ça se passe mal?
Bon, on sait jamais, imagine, ça pourrait être la cata, tu sais. Après,
en fait,
ça a été annoncé, on
se pète un ongle au bout de 2 minutes de jeu.
Oh, ça y est, c'est parti.
En vrai, je trouve que c'est mieux de les jouer que de les regarder. Après, voilà.
C'est de quoi?
C'est mieux à jouer que de les regarder les vrais matchs.
Oh là, c'est pas possible.
La misogynie, c'est
exactement. Non, mais on a fait quelques matchs avec, c'est un poil plus lent, un poil plus posé.
C'était très agréable à jouer.
Il y a quelques animations supplémentaires parce que les filles ont été modélisées aussi, et on a fait des captures avec des joueuses spécifiques, et c'est franchement, pour le coup, c'est un bon moyen de mettre sous les projecteurs le football féminin.
C'est-à-dire, moi, enfin, je suis très content que ce soit là, je trouve ça génial. Après, c'est pas la feature qui me fait choisir le jeu, mais je trouve
non,
que c'est vraiment
que soit, c'est normal,
voilà, c'est une bonne chose, et en fait c'est normal, t'as raison,
pas de...
en fait c'est le mot, c'est normal,
oui, mais c'est la première fois,
oui,
c'est vraiment la première fois
en même temps,
c'est le
jeu officiel FIFA, donc
alors que là c'est le premier, vous voyez Alex Morgan à qui j'ai envie de faire des bisous.
Mais elle a pas été exfiltrée du jeu, elle, non?
Non, elle, non, elle fait pas partie des
13 bannis.
Des 13 bannis à cause de l'histoire avec la NCAA. Alors on a fait l'aspect visuel, on va dire l'aspect sonore, alors on va dire les commentaires, on n'en a pas parlé là. Mais
oula,
bon,
on va en parler si tu veux.
Bon, Sosé Matou pour FIFA, qui répète à peu près les mêmes choses que les années précédentes.
Oui, enfin,
mais avec toujours le même.
Je préfère largement Sosé Matou que.
Ouais, c'est largement mieux.
Margoton, j'aime bien, mais alors l'autre, la Tulette, mais qui dégage vite.
Non, mais les deux dictent, voilà, faut le dire.
Non, Tulette qui dégage, casse-toi, t'es nul, tu sers à rien, franchement, tu sers à rien. Oh là là, ton accent tout pourri. Mais non, moi je suis désolé, c'est de la merde ce qu'il fait.
Oh là.
D'arrêt, tu lâches, casse-toi de PES, tu seras rien, vrai à rien.
Tu verrais qui à la place.
Mais je sais pas, mais tout le monde sauf lui, tout le monde, même moi. Moi je pourrais le faire. Franchement, ce mec il est juste venu prendre ses cachetons là, son cacheton de merde, et il fait de la merde.
Je trouve vraiment dur avec lui.
Ouais,
phrase,
mais
bon.
Il est nul.
C'est ton avis. Après, tu pourrais finir au tribunal de Nancy.
Je tire en face s'il veut, y'a pas de problème. Mais c'est nul, ses commentaires sont pourris, quoi. Pourris.
Ok. On va arrêter avec les commentaires.
Au-delà de la personne, c'est peut-être aussi qu'ils sont assez mal réglés et qu'ils tombent souvent comme des choses sur la
tête. C'est pas les mêmes méthodes d'enregistrement, je pense.
Ce que je veux dire par là, c'est que ces commentaires dans le jeu ne servent à rien du tout.
Je pense que c'est pas lui qui les a écrits. Hein.
Non, mais
je sais bien.
Ils ne sont pas écrits par eux. Ils se retrouvent.
Eux, ils viennent en studio. Moi, je dis, il sert à rien. Voilà.
Pendant un moment, avec les trucs qui défilent sous leurs yeux, là, il les dicte. Ça sent, il le dicte. Et c'est un peu triste.
Bah voilà, donc il est très mauvais comédien.
Parce que ça pourrait.
Parce que Margoton, c'est fluide et tout machin. Lui, c'est n'importe quoi. Enfin.
Mais en fait, il est pas commentateur.
Moi, je trouve qu'il gâche un match. Non, il est commentateur. Moi, je coupe le son.
Bah comme Paganelli avait été choisi à une époque.
T'as tout dit. Il est pas commentateur. Il commente pas dans ce cas-là.
Mais Paganelli, c'était. Oui, mais tu sais.
Résumer la rigueur, mais
l'attrait des grands noms, tu sais, pour les jeux vidéo,
c'est pas un grand nom.
Alors, je veux pas dire malheureusement,
secours, mais le mec il a jamais tapé dans un
malheureusement ballon, pour toi, il est quelqu'un qui est reconnu dans le milieu journalisme
reconnu,
français sur le
pour
football.
Retourner sa veste, c'est clair.
Oh là, c'est pas possible.
Allez, bam!
On peut pas discuter. On peut pas discuter avec ça. C'est quand même un truc de fou. Tout ça pour dire que oui, il y a eu Paganelli aussi à une époque qui a fait les commentaires sur PES.
J'adore Paganelli, mais c'est pareil, il est pas
c'est pas son job, ils sont pas dans les bonnes conditions.
Encore Paganelli, non, il n'y est plus.
Bah non, il n'y est plus.
Bah voilà, donc ils ont compris le truc, quoi.
Ah oui, d'accord,
c'est logique.
Quelqu'un dégage de la télé, ça veut
mais
dire.
Oui.
Ah bah, est-ce qu'elle est encore à la télé, Clash?
Tulette, il est sûrement.
Bah voilà, c'est qu'elle est mauvaise.
Tulette, il est sûrement bon dans plein d'autres trucs et tout, mais en commentaire, il est nul. Je suis désolé, ça sert à rien.
D'accord, on va arrêter avec les commentaires.
Donc dépensez pas votre fric avec.
avec ce mec là quelqu'un d'autre.
Ceux de FIFA sont meilleurs clairement. Mais
non, parce qu'il se repose sur la maman de Darren Tunnel.
Il se repose un petit peu aussi sur leur laurier du côté de FIFA. Et
ça fait quelques années.
Il y a des trucs qu'ils ont pas réenregistrés. Moi, je le sais, je vais te dire pourquoi. Parce que grand fan du PSG, je ne joue qu'avec mon équipe.
Ouais,
et
c'est vrai.
Matou, à chaque fois, il dit Matuï digne.
Ah ouais, hein, ils ont pris, ils ont pris les...
Il y a une espèce de. Ouais, enfin, je sais pas s'il dit ça, mais il donne l'impression de dire ça. Et tu verras, au lieu de dire Matuï digne. Il dit Matuï digne.
Parce qu'il dit
Matuï digne.
On n'a pas vérifié, on n'a pas été.
Et donc,
voir,
je sais que c'est le même son d'année en année.
Il est peut-être marseillais. Je sais pas.
Où est-ce qu'il joue maintenant, Johan Cabaye?
Johan Cabaye.
Voilà, je voulais vérifier. En vrai, qu'on l'ait vérifié.
Et bah, il joue en Angleterre, il est parti à.
Non, pas Crystal Palace.
Si, c'est Crystal Palace. Je crois qu'il est parti à Crystal Palace.
Donc, il faudrait qu'on l'ait vérifié. C'est toujours le
Johan Cabaye.
Johan Cabaye.
Habituel, mais c'est vrai qu'après, il y a des trucs qui ressortent.
Il dit Matuï digne.
Des trucs qui ressortent comme peut-être le but.
Ouais, ouais.
Enfin, ce genre de choses.
Ça tourne un peu en rond, quoi.
Bah oui,
il y a un moment, il faut réenregistrer pour insuffler.
Mais il y a des nouvelles anecdotes, etc.
Non, mais d'accord. Hein, oui, d'ailleurs, on a appris que les joueurs de la Juve, à l'époque, jouaient en cravate.
Ah ouais. Quoi? Il y avait le maillot était rose et ils avaient en plus une cravate. Et ça, c'est fantastique. C'est-à-dire qu'ils avaient la classe dès le départ. Quoi.
Ouais, ouais. C'est ouf. Ouais.
Ah ouais, mais ça, c'est meilleur club du monde de toute façon. Mais tiens, attends, on va checker vite fait.
Merci, oh non, Rami. Pitié. Non.
Alors, on a fait visuel, audio. On a fait Tiep aussi avec Kras.
On a fait Darren Tulette.
Ça c'est fait.
Modélisation, on en a parlé un petit peu, mais alors dans le gameplay, qu'est-ce qui fait d'après vous qui sont si différents?
Voilà, je propose qu'on écoute Tras.
Le gameplay, mais encore une fois, bah, je vais
répondre. Le gameplay de FIFA, s'il te plaît.
C'est l'instantanéité de PES. Face.
Mais moi,
tu dirais que FIFA est laborieux. Il est.
C'est pas qu'il est laborieux. Ouais. Encore une fois, je me base sur le fait que ce sont des jeux vidéo. Et on n'est pas en train de faire une formation accélérée d'entraîneur de foot ou machin, tu vois, on s'en fout quoi. Pour ça, il y a d'autres jeux qui s'y prêtent très bien. Là, c'est du jeu et je veux ressentir le truc de manière instinctive. Et dans FIFA, je ressens pas ça. Je suis
moins instinctif, c'est vrai.
Quand je fais une passe, un machin, ok, tu peux poser ton jeu, etc.
Il faut travailler dans FIFA.
Mais quelque part, dans PES aussi, hein, tu peux poser ton jeu.
C'est ça, t'es un feignant en fait.
Non,
c'est parce que FIFA, tu prends pas le temps peut-être d'appréhender toutes les possibilités qui t'offrent.
Bah, parfois,
les passes
c'est
à 360 degrés, la passe appuyée, etc. Tu veux pas. Tu
parfois,
pas
c'est tout... la passe appuyée, tu l'as aussi dans PES. Hein,
tu coûtes
que après, ça dépend de ta façon de jouer. Par exemple, moi en défense, j'aime bien avoir mon joueur et le placer où je veux. Par exemple, dans FIFA, je peux avec leur système de défense qu'ils ont mis de ça depuis 2011.
Défense tactique, c'était dans l'édition
FIFA
2011.
12.
Ouais, okay. C'est FIFA 12.
Et du coup, tu peux placer ton joueur correctement et ne pas le faire bouffer par une vieille passe en profondeur. Etc.
Mais tu peux le faire aussi dans PES. Tu peux avec le stick droit choisir le joueur que tu veux, comme dans FIFA d'ailleurs.
Ouais, mais tu peux pas l'avoir en mode.
En mode.
C'est-à-dire que quand tu appuies sur
input,
toi tu appuies sur L2.
Ouais.
Ton joueur se met en position de défense et tu peux le gérer. Tu vois, t'as pas besoin de. Il reste pas en mode course en fait, si tu veux.
Ah, tu veux dire qu'il se place devant, comme avec le pressing. Parce que ça, on en parle pas, hein, mais le pressing dans PES qui est toujours automatisé, c'est quand même un petit truc. Bon, ça rend jeu un peu facile par moment en défense.
Oui. Ah, ça crée des trous quand même.
Voilà, alors
ça
que dans FIFA, le pressing n'est pas du tout automatisé. Non. On reste à 1 mètre du joueur et on reste devant lui justement.
C'est ça. Mais justement, je trouve
c'est
un peu tout
match.
Parce que ça casse le jeu.
Vachement se concentrer.
Ça casse le jeu. Du coup, si tu le joues bien, tu peux fermer tout ce que tu. Enfin, tu peux vraiment réellement fermer. Alors
mais je trouve ça dommage quoi.
Dans PES, du coup, comme ça automatisé, du coup, ça crée des trous. Ça crée des trous dans ta défense.
Et tu peux jouer en full manuel
dans
PES aussi.
Mais c'est pas si satisfaisant que ça quand même. Comparé à ce que propose FIFA là pour le coup, c'est pas le même niveau.
Sur la liberté d'action, moi je trouve qu'il n'y a pas photo.
Ah, bah développe.
Je l'ai plus ou moins déjà développé, c'est-à-dire que
tu vas faire ce FIFA 16 avec la liberté de FIFA 16.
Ah ouais, parce que dans FIFA 16, je trouve qu'une action ne ressemble pas à une autre, et t'as l'impression de pouvoir mettre la balle où tu veux, la passe où tu veux. Bon, après il y a toujours des trucs énervants, hein, souvent, que ce soit dans PS ou dans FIFA, je dis mais non, pas là, bordel.
Oui, franchement, combien de fois je t'ai entendu gueuler
beaucoup
dans FIFA,
plus à FIFA parce que
je comprends pas, j'avais pas fait la balle.
C'est plus approximatif, c'est vraiment la direction exacte qu'il faut mettre.
Ouais, ouais, peut-être pas exact, mais
en tout cas ça s'en rapproche beaucoup.
Ouais, ouais.
Mais dans PS,
et puis maintenant il y a les passes appuyées. Au départ je trouvais ça nul. Et en fait, c'est pas mal du tout les passes. C'est une différence passe normale, passe appuyée. Je trouve ça super bien. C'est une nouveauté de cette année, ça.
Oui,
c'est
pas dernière. Bah oui, dans PES, ça existe depuis 100 000 ans.
Mais non, c'est pas, ça existe pas depuis 100 000 ans.
Mais qu'est-ce que vous appelez la passe appuyée?
Mais c'est une passe qui est
fort, quoi.
Vraiment forte, qui est exclusivement forte, qui ne te fera pas faire un contrôle parfait.
Mais par contre, ça te permet d'éviter une interception quand il y a un joueur qui est quasiment sur la trajectoire.
C'est ça aussi. Pourquoi vous
Non, c'est plus fort qu'une passe en profondeur. C'est plus fort qu'une passe simple. C'est des choses qui ne sont pas
dans. C'est en profondeur, tu peux l'appuyer aussi, non? Non, j'ai rêvé.
Tu les appuies pas du tout. Par contre, tu peux appuyer tes passes en hauteur pour que ça fasse une balle qui décolle un tout petit peu.
Ouais, c'est ça.
Mais pas beaucoup. Et ça peut être des armes. Disons que d'armes pour attaquer et défendre dans FIFA, on a vraiment l'impression d'avoir beaucoup plus de choix, beaucoup plus d'outils
qui nous
sont proposés.
C'est possible que dans PES ils soient restés un petit peu sur leur base entre guillemets, sur leur basique, mais justement peut-être pour pas déstabiliser trop les joueurs non plus, parce que le gameplay de PES, il faut qu'il reste comme ça, il faut pas qu'il le change complètement, qu'il chamboule tout.
Bien sûr.
Qui du jour de l'année sur l'autre font un truc complètement différent.
Mais toi, t'énerves pas les automatismes au bout d'un moment dans PES?
Non, parce que moi j'ai toujours appris comme ça et c'est comme ça que j'ai
joué. Oui, mais ça fait quand même combien de temps qu'on joue à ce jeu? C'était en 98?
Ça fait 20 ans.
Ouais. Non, ça fait on va dire un peu plus de 16,
à l'époque
d'ISS,
98,
ISS Pro.
97, 98, ouais. Et bah, quelque part, il y a encore des schémas qui sont plus ou moins identiques à avant.
Ouais, franchement. Absolument, ouais. D'ailleurs, les passes en profondeur, on peut en parler. Dans FIFA, quand on tend une passe en profondeur, l'OB.
Elle passe pas, à moins d'avoir construit ton jeu en conséquence et d'avoir pu avoir un appel.
Ouais, exactement. Alors que dans PES, ça marche encore assez bien. Faut le dire.
PES, franchement, t'as un nombre de coups quand tu rentres dans le jeu. Tu fais tous les trucs, tous les entraînements, etc. T'as un nombre de trucs, mais incalculable. Pour moi, c'est impossible de tout garder en tête parce que.
Ouais. Mais dans FIFA, c'est un peu pareil avec les tricks parce que c'est.
Mais justement, quand tu réussis à faire ces trucs-là, juste avec l'entraînement ou avec des tutoriaux. Putain, tu dis merde, le jeu il a une profondeur de malade, on doit utiliser que 10% du truc.
On en arrive au mode de jeu dans FIFA et PES.
Ah bah les modes de jeu, oui, dans FIFA.
Alors,
c'est sûr que.
Je parle pas du fait que effectivement il y ait des modes de jeu online, offline. Sur le online, PES se fait rétamer malheureusement. Je parle même pas de la qualité des serveurs puisque ça a plutôt bien tourné.
C'est quand même un critère important le multijoueur pour un jeu de foot.
Exactement. Et bah de ce côté là.
Ça marche très bien en PES, c'est quoi le plus.
Ouais, mais le problème c'est.
Ah bon, il y a des problèmes.
Il y a quasiment rien.
Tu vois, en ligne.
Il y a quasiment pas de mode en ligne. Nouveau par rapport à l'année dernière.
Ah oui, nouveau, d'accord.
Mais même le matchmaking, ça a toujours déconné.
Le matchmaking, cette année ça va. Franchement,
ça marche.
Cette année, franchement, c'est. Comme vous avez pu le voir dans le test de PES.
T'as rajouté la
mise à jour.
Donc relisez encore une.
Ça se passe plutôt bien. Jeu en ligne.
Mais c'est vrai qu'en dehors de mode vraiment très classique, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent par rapport à l'année dernière. Le My Club est un petit peu mieux, le Master League est un petit peu mieux, mais c'est des petits dépoussiérages, quoi. Des petits coups de please comme
ouais,
ça.
Mais encore une fois, c'est pour un jeu de foot, c'est déjà beaucoup tout ce qu'il y a, ça suffit.
Mais enfin, oui, mais du côté
de FIFA, comme dans
FIFA,
t'as 8 millions de bagnoles,
énormément de mode. Tu peux faire du 2 contre 2 en ligne, tu peux faire du 11 contre 11, comme c'est le cas pour PES.
Ouais,
t'as le FUT,
le
FIFA Ultimate Team.
Ça, c'est cool, le FIFA Ultimate
Team. Ça s'est développé à un point incroyable, à tel point que quand on rentre dans le menu FUT dans FIFA 16, c'est un autre jeu. Donc il y a le FUT normal où d'ailleurs on peut le tâcher ce fut
j'étais sûr que t'allais sortir en 22 juste
ouais,
en train de chercher
moi aussi j'étais en train de chercher
le fut, le football
elle est un peu moyenne celle-ci. Et vous avez le FIFA Ultimate Team normal et que vous pouvez jouer en solo offline et en online. Il y a le fut draft qui est arrivé qui vous permet en échange de jetons
de vous faire arnaquer,
de faire des équipes de rêve mais immédiatement
oui, mais c'est payant, je crois, après.
En choisissant ouais absolument il faut acheter des jetons et vous faites des équipes de rêve en direct et là je pense que pour les streamers ça va être une mine d'or parce que il y a la possibilité d'interagir au moment où on va choisir entre 5 joueurs pour un poste. Il y a moyen de demander tiens tu préfères choisir quel gardien, je veux dire c'est un mode qui ne change pas grand chose mais qui apporte encore un petit peu plus à un édifice qui est déjà mais gigantesque.
Précisons aussi que les entraînements sont assez géniaux.
Et j'allais y venir, les entraînements dans PES
aussi, les entraînements sont
ils sont
bien,
tristounets
n'importe
ils
quoi.
Sont tristounets, c'est quasiment les mêmes que l'année dernière.
Ils sont très bien justement.
Mais non,
tu les as fait l'année dernière tous? Non,
mais bien sûr que si, évidemment, c'est moi qui faisais le test.
Aucun entraînement, j'en suis sûr.
T'as voulu que je parte ou
non, mais ils sont extrêmement tristes. Il n'y a aucune inventivité dans ce FIFA. Tous les ans.
Et je t'ai pas fait de FIFA, j'avoue.
Tous les ans, ce sont des ateliers qui sont refaits avec des nouveaux obstacles, des nouvelles manières d'envisager comment on va apprendre à faire des passes, des pinceaux en hauteur, des tirs, des coups francs. Il y a toujours un petit truc en plus.
Ça sert à rien, c'est gameplay.
Il y en a énormément, il y en a près d'une quarantaine, je crois, même plus. Alors que dans
PES, il y en a un paquet aussi.
Mais dans PES, il y en a peut-être une vingtaine, à tout casser.
Oui, pour tout avoir en or, accroche-toi, mec.
Et ils sont, mais vraiment tristes. Voilà, c'est ça le truc. Ils sont tristes.
Mais PES, pour enfin pour revenir à Rami. PES et le foot et le fut, ils n'ont pas tenté de refaire quelque chose.
Fils de fut.
ils n'ont pas tenté de faire quelque chose de similaire avec PES 2016.
Si, bien sûr, le My Club.
Le
My Club qui lui aussi propose un système de recrutement un petit peu aléatoire. On dit tiens, j'ai envie de recruter un joueur. Là, t'as des ballons qui défilent. Ça s'arrête sur un ballon en particulier. Si t'as de la chance, c'est un ballon en or. Tu récupères une star, etc. Enfin bref, il y a plein de petites idées dans
le jeu.
C'est quasiment la même chose, oui. Avec quelques trucs qui sont ajoutés. Ils ont ajouté des niveaux pour les joueurs qui peuvent évoluer comme dans un RPG. Ils ont ajouté.
Mais justement, putain, les mecs, c'est un jeu de foot. Ça sert à quoi d'avoir tout ça?
Mais ça, c'est PES. Donc.
Ouais, mais c'est pareil. Pour moi, c'est la même critique. Hein. Non, mais c'est des modes de jeu. Non, mais c'est pour ça que je dis que c'est pas grave.
Oui, mais c'est des modes de jeu.
C'est pas grave.
Les modes d'avoir des milliards de
comme ça. Tu pensais qu'il parle.
Non, non, je dis pas que non. Vous. À ce moment-là, bah, pour... tu fais juste un jeu.
Ça marche pour les
joueurs à deux, puis c'est tout.
Ça marche pour les deux. Tu dis dans PES, il y a pas beaucoup de trucs d'entraînement, mais ce qu'il y a, ça suffit.
Mais non, ça suffit pas. On est en 2015, on va pas refaire le jeu tous les ans.
En 2015,
mais
tu attends, veux que notre cerveau il explose d'année en année ou quoi?
Tu te rappelles le PES 6 avec
attends,
le
2050,
le random,
on aura des cerveaux de 600
le random national selection, tu t'en rappelles ou pas?
De quoi?
Le random selection dans PES 6. C'était un mode de jeu où tu disais
non,
j'ai envie de sélectionner des joueurs au hasard d'une nationalité ou d'un championnat et on va faire une équipe avec ça. Et ça, c'était génial comme
alors,
mode. C'était totalement aléatoire. Tu pouvais te retrouver avec des joueurs.
Bah, c'était du foot porn, justement.
Exactement. Et ça, c'était génial.
Porn,
et ça,
quand t'adores ta Ligue 1 ou ta Liga ou ton machin.
Cette inventivité, on l'a plus en termes de mode de jeu du côté de chez PES. Et vraiment, ils devraient y penser. Parce que c'est un truc, se renouveler un petit peu. Et je peux
ça
dire aussi.
Ça fait pas de mal.
D'abord, le gameplay, le reste, on verra après.
Non, mais c'est ça que je dis. Mais c'est bien aussi de se renouveler dans ce qui entoure le gameplay.
Ouais, franchement. Honnêtement, politiquement parlant, avec ce qui s'est passé,
tu serais pas de droite.
Ce qui s'est passé chez Konami depuis 2 ans là.
Ouais.
Ils ont sorti le foot de jeu déjà.
Le jeu de foot, tu veux dire. Hein, tu parles un peu comme le papy dans les stories. Non, je voudrais pas t'alarmer, mais t'es en train de.
Ils ont sorti le jeu, c'est un miracle. Donc, franchement,
d'accord.
Accorde-leur déjà ce bénéfice.
Très bien. T'as encore d'autres moments de rage à partager avec nous. D'accord, il est en train de s'étouffer donc en direct pendant l'enregistrement du podcast. Quels sont les autres points qu'on pourrait développer avant de rendre l'antenne, messieurs, d'après vous, quel est son... Julo, qui est mort de rire.
Non, quoi?
Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui vous a plu ou qui vous a déçu du côté de chacun des jeux?
La désolidarisation du joueur et de la balle dans FIFA.
Ouais, ça t'a plu beaucoup.
Oui.
Parce que ça.
Hein mais elle colle au pied, qu'est-ce que tu racontes?
Mais c'est toi qui colle au pied.
Les joueurs sont en papier, les ballons aussi, donc tu mets un peu de colle.
Tu sais, t'as remarqué qu'on pouvait.
Ça bouge plus.
On pouvait faire le dribble sans ballon quand même dans FIFA tout à l'heure.
Unfold dead.
Oh là là, Traz, on peut pas discuter avec toi.
C'est vrai.
Julo, je te laisse continuer.
Non, mais je suis pas fou. Le joueur est plus désolidarisé dans FIFA.
Bien sûr.
Où tu peux presque lâcher le ballon, tourner autour, faire
mais
un grand pont en mode presque manuel, quoi. Voilà, donc ça, je trouve ça cool. Voilà.
D'accord.
Ah non, un autre truc que j'ai découvert hier soir
ouais.
Et je trouve génial. C'est pas souvent qu'on dit du bien de Kinect dans FIFA.
Oh là, attention, la tête.
Oh là, qu'est-ce que
c'est un truc que j'ai pas encore vu, donc dis-moi.
Ah bah moi j'ai joué chez moi hier à FIFA 16 jusqu'à 3h du match, je crois.
Ah bah bravo.
C'est pour ça que je suis un peu fatigué aujourd'hui.
En plein TGS, bravo.
Non mais sur le net.
Oui, j'ai
sur le net.
J'ai pas vu l'heure passer.
Sur le net.
Je kiffe. Non, sur ma console comme ça.
Ah t'es pas en ligne.
Contre le CPU, non, parce que c'était pendant que le jeu s'installe. Ça a duré, mais je te jure, il s'est installé en 2 heures, je crois, 2h30. C'était un truc, non, même plus que ça.
28ème point négatif,
je suis en train de noter. Tu peux me dire vite fait là, t'es rentré à quelle heure déjà?
Ouais, hein. Et donc, bref.
Ta douche, elle était comment?
Et donc, quand Kinect est branché sur ta Xbox, il te recommande dès le premier match, avant que tu commences, il dit hey, attention, Kinect est enclenché, tu peux l'utiliser pour te faciliter la vie. Je fais ah bon? Et donc, je clique sur le truc.
Ah,
et là, il t'explique en fait, pour faire un changement, t'es là en train de jouer, tu t'arrêtes pas de jouer, tu continues tes dribbles, tes machins. Et tu dis changement.
Ah, mais c'était déjà le cas
et là,
je crois.
Et là, t'as une liste de joueurs avec leur tête qui arrive et leur nom marqué en dessous. Di
t'as
Maria,
dingue, ouais, qui arrive.
Tu dis Di Maria, il sélectionne.
Maria.
Ensuite, tu dis Lucas, hop, et là, le changement il s'est enclenché. T'as pas lâché la manette, t'as pas arrêté de jouer.
Je crois que c'était déjà le cas l'année dernière, mais
je sais plus.
T'as réveillé tout le monde chez toi juste avant.
Non, justement, je le faisais vraiment presque en chuchotant, ça marchait super bien.
Maria,
et tu peux dire aussi
Maria.
Mentalité. Donc, quand tu dis mentalité, pareil, t'as tous les
trucs. C'est ta femme qui a dû flipper quand même. Ah, Di Maria. Mathieu dit.
Elle dormait.
Mathieu dingue.
Donc tu dis mentalité et là tu peux dire attaque de folie.
ou tout derrière. C'était sûr, ça je me rappelais que l'année dernière on pouvait le faire.
Voilà. Ah. Et par contre, ce qui est très con, c'est que tu peux pas repositionner.
Ah, encore un point négatif.
Voilà, un point négatif.
29ème.
Si par exemple tu fais sortir Ibrahimovic et tu fais rentrer Lavezzi, bah c'est complètement con de mettre Lavezzi à la place d'Ibrahimovic. Il faudrait que Cavani se décale vers le centre.
Ah.
Et donc tu peux pas intervertir le joueur qui est encore sur le terrain avec la place du nouveau. Donc d'accord, t'es obligé de retourner dans le menu. Donc c'est un peu con. Voilà.
Ok.
Ah oui.
Parce que les changements souvent ils sont tactiques.
C'est un gadget. Voilà.
Bon, si on fait le tour rapidement, messieurs.
PES.
Toi, tu c'est exactement ce à quoi je voulais venir. C'est bah, bien. Voilà. Tu permets d'avoir des podcasts plus courts, même si t'es relou. Alors, PES. Principale raison.
Bah, le gameplay, tout simplement, c'est toujours le meilleur
feeling,
pour moi.
Ouais.
Le feeling, le jeu, quoi, le truc, t'as
d'accord, du... c'est pas un feeling que tu trouves trop vieux, donc. C'est
non, vraiment, pas du tout.
Il reste d'actualité.
Bah non, parce qu'il est toujours aussi beau, machin, il y a plein de trucs encore.
Le fait l'avocat du diable, hein, moi je sais que très bien qu'il est très bien, franchement, ce jeu, hein, vous inquiétez pas. Julo,
trop dur de choisir cette année.
Ouais.
Mais
tu sais bien, si Julien était là, il serait derrière ton épaule, il ferait.
Choisis,
si, tu dois choisir. Mais
justement, je vais choisir, je vais vous expliquer comment. En fait,
oh
là,
non,
tout de suite,
temps.
Maintenant, j'ai les deux jeux sous la main. Ouais. Je vais plutôt lancer FIFA parce que je suis vraiment hyper intrigué par ce
par
dépoussiérage total du gameplay qui fait que t'as l'impression qu'il faut apprendre à jouer et que t'as une marge de progression folle.
Mm. D'accord.
Et je suis d'ailleurs très impatient, on n'a pas parlé, de voir des pro-gamers, vois, les Bruce Granek, etc.
Faire des démonstrations.
Voir des matchs de pro, quoi.
Ouais.
À mon avis, sur FIFA, ça va être incroyable.
Mais encore une fois, je te dis, ouais, dans FIFA, à regarder, c'est génial.
Bah,
vraiment.
Dont on pourrait parler, c'est qu'on a fait des matchs, nous, très tendus.
Et on est des pros.
Et on n'avait pas beaucoup de buts dans ces matchs-là. Mais vraiment,
on a fait des 0-0.
On a fait des 1-0, etc.
Ouais,
et on sentait vraiment qu'il y avait un truc, quoi, que ça pouvait basculer.
Je sais pas si tu te rappelles, on a fait un 0-0. Et on s'est regardé, on s'est dit, putain, il était génial ce match.
Ouais.
Comme en vrai. C'est-à-dire qu'il y a des bons 0-0.
Effectivement, il y a des bons 0-0, il y a les mauvais 0-0.
C'est comme les chasseurs, finalement.
Voilà. Rami. Parce que là, on est tous fendus à tes lèvres.
Non, moi, j'adore les deux, mais ça va être FIFA 16 pour les mêmes raisons que Julo.
Mm.
Le fait de voir tu réapprends vraiment tout de 0, et du coup, j'ai envie de voir un peu la marge de progression que je pourrais avoir.
Bah, c'est FIFA 0 alors.
Ouais.
Ok.
Ouais. Zéro pointé.
Et du coup, ouais, j'ai une préférence pour FIFA 16 cette année.
T'as une préférence pour FIFA 16.
En termes de gameplay, en tout cas.
Et l'autre raison aussi, si je peux me permettre, celle-là aussi, elle m'a pas marqué hier, parce que j'ai joué au casque et tout. C'est justement l'authenticité. L'authenticité, le côté foot porn. Justement.
L'ambiance qui tue.
Parce que quand t'aimes le foot,
tu t'es créé au Parc des Princes, c'est ça?
Bah, moi, au Parc des Princes, j'y vais toutes les deux semaines.
Ça le bourge.
Voilà, bravo. Et j'ai retrouvé des chants. C'est pour ça que je dis que c'est pas parfait, parce qu'on peut faire quand même beaucoup mieux que ce qui a été fait. Mais c'est quand même déjà cool, quoi. Voilà, et
très
l'ambiance
bien.
Du stade.
Mais c'est toujours été comme ça dans FIFA, l'ambiance.
Ouais.
Dans
le stade, les angles de caméra, tout quoi. Voilà, ouais. Tous ces trucs-là.
Belles images, belle musique.
Dis pas de conneries. Je sais
quant
que tu
te
branles de tout.
Attends, t'allais demander à Rami encore.
Non. J'allais dire quant à mon avis.
Tu peux te le foutre.
Eh bien, vous attendrez, je pense, que le test de FIFA 16 sorte. Je vais d'ailleurs aller.
Bon, on peut donner la note ou pas là
maintenant, non, absolument pas. Je le réserve. Mais c'est vrai que FIFA 16 m'a beaucoup intrigué ces derniers jours et donc on verra bien. Le test de FIFA 16 arrive bientôt. Celui
de PES. Podcast, je veux faire un FIFA 16.
Casse la gueule.
Je veux faire un FIFA 16.
Et bah, très bien, comme ça tu vas apprendre un petit peu à jouer à FIFA 16.
Unfolded.
Merci, monsieur.
Origami.
Merci, Traz, d'avoir été toujours aussi relou comme d'habitude. Merci, Julo.
Merci à
merci vous. Merci, Ravi, d'avoir participé évidemment à ce podcast. Merci,
et
Julien et Carole.
Merci à toi.
Merci pour quoi ?
Mais pourquoi
merci à toi.
Merci, j'ai envie de dire.
Mais si, vous inquiétez pas, j'ai des remerciements tous les jours.
Il y a un bon de jeu Origami dans FIFA 16.
Oh là, on pourra jamais clore ce podcast.
Ils ont mis des conditions climatiques quand il y a le vent, tout le monde s'envole.
C'est
pas moi.
Non, c'est pas possible.
Non, mais toi,
ça va dégénérer.
Je fais tes vannes avant toi. C'est tellement pas visible.
Merci à vous de nous avoir suivis évidemment pendant ce podcast très animé. Merci Traz, hein, vraiment. Évidemment, on vous invite à réagir dans les commentaires que vous ayez joué à FIFA 16 et PES 2016, que vous ayez des avis tranchés sur ces deux jeux.
Ça va se bastonner dans les forums.
Si vous allez avoir, si vous avez une préférence pour un des deux, voire pour les deux, ça se trouve. Moi, je suis plutôt du genre à me dire que j'aimerais bien jouer aux deux cette année. Ça dépendra de mes potes en fait. C'est toujours comme ça avec moi. Ça dépend souvent des potes que je vois avec qui je vais pratiquer du football virtuel. N'hésitez pas à nous dire. N'hésitez pas à nous dire non plus ce qui vous a le plus botté durant ce TGS 2015 et ce qu'ont vu Carole et Julien en direct de Tokyo. On se retrouve la semaine prochaine évidemment pour un autre podcast qui devrait être consacré à un anniversaire. Je vous en dis pas plus. D'ici là, portez-vous bien et surtout, jouez bien. Ciao.
Salut
les amis.
Ah, salut Darren.